Bonjour et bienvenue dans... C'est même pas un son, c'est une musique.
L'infini.
Waouh.
Les prairies bleues du ciel.
Ah, oui. Et qu'est-ce que c'est ?
Il était une fois l'espace.
Et c'était quoi, ce que je connais pas ?
Ah, bah, c'était par Barillet. En fait, c'était sur les... Il était une fois l'homme, il était une fois la vie. Et là, il avait fait, il était une fois l'espace, un truc de SF en fait.
Ouais.
Et c'était vachement bien.
Ah, d'accord. Ok, l'émission de Dieu. J'ai compris. Allez, c'est parti. Et c'est enfin le retour en studio. Alors, on a dû mettre en place quelques règles sanitaires, hein. Un mètre de distance entre tout le monde, bien sûr. Le plexiglas, hein, au milieu de la table, on a nettoyé les bonnettes. Mais comme on était trop nombreux autour de la table, on a dû tirer au sort pour savoir qui allait se sacrifier pour faire l'émission depuis les toilettes. Et celui qui a perdu, bah, c'est PM. Alors, on va se connecter en duplex des toilettes. PM, vous nous entendez ? Comment allez-vous ?
Oui, je vous entends. Ça va bien. Je me sens un peu cloisonné là, mais bon, c'est les conditions sanitaires.
Quoi. Ah ouais, désolé. Bon, comment ça se passe de votre côté ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous sentez ?
Oui, alors je sens tout un tas de choses. Il y a la bombe des toilettes, mais sinon je me sens bien. Et la visibilité ici est réduite. J'avoue que j'ai une porte à 1 mètre de moi. Les tapisseries sont d'un goût exquis. On va dire que l'ambiance ici est moyenne. Je suis pas très à l'aise.
Bon, est-ce qu'on laisse tomber parce qu'avec le décalage, on va pas pouvoir faire cette émission. Est-ce qu'on
nous
dit de revenir ?
Ouais. Parce que là, les toilettes, elles sont de l'autre côté du monde là.
Allez, reviens à PM, t'as le temps du générique. Voilà, tout le monde est là, il y a Monsieur Lourdes.
Ah, salut.
Il y a Monsieur Choutan.
Salut.
Il y a Yayo.
Bonjour.
Et il y a PM de retour des toilettes.
Ouais,
ça
je suis
va,
là. Ouais, ouais, je suis content.
On est mieux ici. Hein, quand
ah,
même.
Carrément.
Alors, laissez-moi vous dire que je suis ravi de vous revoir, hein, franchement.
C'est partagé.
Ah ouais.
Je ne vous parle pas à vous, je parle aux auditeurs.
Ah oui, bien sûr.
Bien sûr.
Mais moi aussi, c'est partagé aussi.
Je suis vraiment ravi de vous revoir. Vous allez tous bien ?
Ouais, ça va.
Ouais, super.
Tel Imoen, je suis ravi de vous revoir.
Bah, on est tous ravis, on est autour de la table, enfin. On ne s'était pas vu depuis fin janvier, je crois.
Voilà, oui,
ça là, février,
c'était peut-être.
C'était le monde d'avant, ça.
Ouais, voilà, le
c'était
monde
l'hiver.
D'avant. Alors, si des gens nous écoutent en 2030 et ne comprennent pas pourquoi on est si content de se revoir,
ouais.
On va revenir très rapidement parce que le confinement, on a quand même soupé de long en large en travers. Mais bon. Ça saoule un peu tout le monde, je sais, mais comme c'est un événement qui reste assez exceptionnel dans notre vie,
on
va quand même prendre quelques minutes pour prendre des nouvelles de chacun, parce que quand même, on n'est pas des sauvages. Comment ça s'est passé pour vous, hein, autour de la table au confinement ?
Bah, bien. Au début. Et puis après, on fait avec.
Après quelques jours.
Et à la fin, on tourne en rond.
À la fin, on tourne en rond,
ouais. De ce côté-là de la table, ça a été ?
Oui.
Ouais.
On a maintenu une activité, disons... bien, mais c'est vrai que
travail, voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. On a pu maintenir l'économie en route.
Ouais, c'est ça, exactement.
Merci à vous.
La joie d'être travailleur.
On a tenu la société à bout de bras. Voilà.
Ouais, bah moi j'ai fait des apéros hangout. J'ai pris 3 kilos que j'ai un petit peu perdu. Voilà, j'ai tourné en rond. C'était très bien, très mais bon
c'est
confinement.
C'est à cause des raclettes de confinement. Hein.
Ouais, mais on en a fait 2 en un mois.
Non, mais ça va. J'ai réussi à trouver le jeu sur Switch, la Ring Fit Aventure, et du coup ça marche bien. C'est très bien.
Bah oui, on devait s'enregistrer un petit truc pour le confinement d'ailleurs, mais avec Ego d'ailleurs, on lui fait un petit coup.
Oui,
petit
c'est vrai,
coucou.
C'est vrai.
Mais bon, le confinement, c'était un peu pareil pour tout le monde. Il y avait 10 000 projets et puis au final, on n'a pas fait forcément grand-chose, sauf Monsieur Lours hein, qui était hyper actif, je le sais.
Hyper productif.
Donc, on a essayé.
Donc partie remise à Ego, on lui fait des petits coucou,
oui.
Hein, pour une prochaine. Bon, vous avez tous bien travaillé parce qu'on va quand même travailler pour ce soir.
Oui.
Oui.
Ouais, je vois ça parce que vous m'avez tous donné 50 000 sons, 50 000 vidéos, donc je suis déjà un petit peu perdu. Et petit préambule, je vais passer au montage sur Reaper. Je le dis maintenant parce qu'à la fin, les gens n'entendront pas si
c'est l'édition
ou quoi. Je vais passer sur Reaper, donc le son sera peut-être pas exactement pareil que d'habitude. Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, vous pouvez m'insulter si c'est pas bien.
D'accord. Et maintenant, tu vas passer sur Bulit aussi ou pas ?
Oui, on peut passer sur Reaper, Bulit et sur.
Pamela Rose.
Pamela Rose, voilà. On va causer de quoi aujourd'hui ? On va faire un petit tour de table, monsieur Choutan.
Ah oui, mais là, je viens de manger.
Alors, on va parler de quoi ? Je vais commencer. Je vais vous faire une petite chronique. Est-ce que vous aimez danser ?
Oui.
Ah bah, pas tous.
Moi, je sais pas danser. Hein. Je sais pas danser autre chose que du reggae, donc.
Ah oui. Merci, Pierre-Paul Jacques.
Oh, dur. Moi je fais une petite chronique sur la danse, voilà, vous verrez plus en détail. Et un petit jeu au pardi, un classique des familles, voilà. Toi Choutan ?
Alors moi j'ai fait un petit blind test, hein, comme à mon habitude, là c'est avec de...
Donc Resident Evil.
Voilà, tout à fait, exactement.
Demi-cry.
Une thématique cette fois-ci. Là je joue pas au piano, c'est des vraies chansons. Et une petite chronique de 5-6 pages, écrit petit, sur les quêtes fantastiques, quêtes annexes de Final Fantasy VII, l'original.
L'original, ok, pas le remake. Ouais, monsieur l'ours.
Bon, on va faire une reprise tranquille. Puisque je vais peut-être clore ma trilogie de sujets sur les techniques cinématographiques du futur. Voilà.
Donc un petit derrière le miroir noir.
Ouais, c'est ça, un côté très technologique, mais là, côté cinéma aussi.
Doyo.
Je vais vous emmener dans les profondeurs de la violence.
Okay.
D'accord.
Waouh.
Ça se suffit.
Attention.
La définition se suffit.
Elle-même. Attention, nous partons à Dijon.
Toi, PM.
Alors moi, je vais faire un petit interlude sur des mots de la langue française, plus ou moins connus.
Donc.
Et j'aurai le plaisir de faire le relais culturel que Choutan m'a donné la dernière fois.
Exactement.
Voilà.
Bah, on a beaucoup de choses à se dire, on a une bonne émission qui va faire peut-être 1h40. On va essayer de pas trop déborder cette fois-ci.
Comme à chaque fois.
Même si je sais qu'on a plein de choses à se dire. Et on va commencer avec Yo, qui veut nous parler des profondeurs de l'océan, c'est ça, si j'ai bien compris.
De la violence. Alors, trigger warning tout de suite, cette chronique va contenir des faits rapportant des viols, des violences, des meurtres, de l'inceste et de la drogue.
Je sais de quoi tu vas parler. Mais est-ce que tu veux
c'est
un
tout
jingle
toi, ça.
Oui, allons-y.
On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses exploits fantastiques.
Nous sommes au mois de juin. Maurice est content. Il profite de l'approche de l'été pour nager au large de Monterey Bay en Californie. Soudain, sans même qu'il ait pu s'en rendre compte, il se retrouve encerclé par 3 individus menaçants. Rapidement, il commence à le frapper avant d'être rejoint par 7 camarades. Ensemble, ils s'en donnent à cœur joie. Maurice succombera à la violence des coups qu'il aura subis. Maurice n'est pas le premier à être victime de ce gang qui sévit au large de la cité balnéaire. Depuis des semaines, des cadavres viennent s'échouer sur les plages environnantes, couverts de traces de coups et de morsures. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Maurice, comme les autres victimes, est un marsouin. Et le gang qui aura eu sa peau, un gang de dauphins. Car oui, les dauphins, sous leurs airs de petits animaux mignons et rieurs, sont en fait des bêtes sauvages, avides de sexe et de violence. Aurel Salles nous l'a dit dans sa chanson, les dauphins sont des violeurs. Les Simpsons aussi nous avaient prévenus. Mais on a préféré ignorer toutes ces alertes, en continuant à idolâtrer ces bestioles, comme des animaux trop mignons et si intelligents. Alors ça oui, ils sont intelligents et ils sont joueurs. C'est pour ça qu'ils décident de jouer littéralement avec le corps des marsouins qui partagent leur espace vital. Cette pratique que je vous ai relatée, qui s'est produite à Monterey Bay, elle se retrouve aussi à d'autres endroits du monde. Par exemple, au large du Pays de Galles. On doit leur reconnaître quand même, ils font dans le pratique, ils font dans l'écologique, ils n'ont pas de ballon, et ben ils prennent ce qu'ils ont sous la main. Parfois, ils s'organisent en groupe pour isoler et harceler une dauphine jusqu'à ce qu'elle accepte de s'accoupler avec l'ensemble du groupe. Ils sentent même que lorsque la dauphine est accompagnée de son petit, ces bêtes sanguinaires n'aient aucun scrupule à tuer le dauphino avant de se lancer dans un gangbang maritime. Pour pouvoir pécho une femelle, il décide de jouer un jeu qui s'appelle « Jette le pitchoun ». Et il se balance le petit à coups de museau. Alors parfois, il se contente de le noyer, bah oui, parce que les dauphins, ils ont besoin de remonter à la surface pour respirer. Voilà ce que sont les dauphins. Des violeurs infanticides. Et c'est ça qu'on met dans des boules à neige. Alors vous pourriez me dire « Oui, mais c'est logique, c'est une volonté de survie. Tu comprends, le dauphino, il empêche la femelle de se reproduire et il faut s'en débarrasser. Et en s'y mettant à plusieurs à la suite, eh ben, personne ne sait qui est le géniteur, donc tout le groupe va protéger le petit. Et donc le risque d'infanticide est limité. Ben non! Parce que leurs agressions sexuelles, elles ne s'arrêtent pas à leur seul congénère dans un but reproductif, non. Ils s'en prennent également aux humains. Jessica Alba en aurait fait les frais lors du tournage des nouvelles aventures de Flipper le dauphin. Et je ne veux aucune remarque sur le physique de Jessica Alba, d'accord? Dans le Finistère, la ville de Landévennec a dû interdire la baignade en août de l'an 24 après AS à cause de la présence de Zafar. Zafar, c'est un dauphin ambassadeur, donc ça veut dire qu'il ne vit pas en groupe. C'était accessoirement un agresseur sexuel. Alors ne commencez pas à les défendre. S'il vous faut encore plus, ils pratiquent également l'inceste. En fait, c'est plus des animaux, c'est l'incarnation vivante de Game of Thrones. En 10 après AS, une opération de test de paternité à grande échelle a été réalisée à Shark Bay, probablement liée à une sombre affaire de pension alimentaire. Celle-ci a révélé que les dauphins de la région pratiquaient l'inceste. Un dauphin notamment, tel Craster, a mis enceinte sa propre fille. J'ai pas les chiffres exacts, mais quand même. La violence et le sexe ne suffisent pas aux dauphins. Il a fallu qu'ils se vautrent dans le triptyque adoré de zone interdite en se révélant être des putains de drogués. En janvier de l'an 20 après AS, la BBC a diffusé un documentaire sur les animaux marins, narré par David Tennant. À l'instar de Matt Pokora et de 50 Minutes Inside, ils ont suivi pendant un an des dauphins et d'autres animaux maritimes. Et révélation. L'une des séquences montre un groupe de 5 dauphins qui s'amusent à poquer délicatement un poisson globe. Quand on connaît leur violence et leur force, on sait que ça n'est pas anodin. A raison. Quelques instants plus tard, on peut observer les dauphins le regard dans le vide, dans une sorte de transe légère. Défoncé, quoi. Pour cause, le poisson globe libère une neurotoxine quand il est en danger. Neurotoxine mortelle à haute dose, mais qui permet de se défoncer tranquillement à petite dose. Donc les dauphins, bien que rien ne démontre qu'il s'agisse d'une pratique généralisée, probablement parce que ça ne doit pas être légal, se passe le poisson globe, tel un joint dans une soirée. Surtout les enfants, ne faites pas ça chez vous. Vous n'êtes pas des dauphins. Hyper musclés avec les mêmes dents que Macron et une capacité à nager à plus de 30 km/h quand ils s'y mettent à fond, les dauphins sont de véritables machines à tuer. Et vous voulez nager avec ça ? Rien que les dents, ça aurait dû vous calmer. Alors vous dites pourquoi ? Mais pourquoi on s'en débarrasse pas de ces monstres ? On les bute tous et on les bouffe. Eh ben non, parce que déjà leur viande, elle est hyper calorique. Pour du poisson, hein. 174 calories au 100 grammes. C'est plus que le thon, un peu moins que le saumon. Mais en plus, leur viande, elle est bourrée de mercure. Donc c'est extrêmement toxique pour nous. Alors ça n'empêche pas quand même certains de dépecer les dauphins qu'ils attrapent dans leur filet dans la plus totale illégalité. Si vous allez voir sur internet, vous pouvez trouver des vidéos grâce à Greenpeace. Mais pour le bien de tous, hein, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il y a une raison pour laquelle on ne mange pas les animaux bizarres. Alors, on fait quoi ? Eh ben rien. Parce qu'en fait, les dauphins, c'est des animaux sauvages. Ils sont intelligents, certes, mais ça reste des animaux sauvages. Et ça reste des animaux. Donc on les laisse dans la nature, on n'intervient pas. Ils butent des marsouins s'ils veulent. Parce qu'en fait, bah, c'est la nature. Mais on ne nage pas avec eux. Et on arrête de les foutre dans des putains de boules à neige dégueu. Ce serait déjà pas mal.
Sacré retour, hein.
Ouh. Ah mais quand tu sais... De toute façon, quand t'as joué à Echo le Dauphin quand t'étais petit, tu sais que c'est des saloperies. C'est des saloperies. D'ailleurs, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais Echo le Dauphin était basé sur des études, justement, des dauphins. Et le mec, sa femme s'était fait violer par un dauphin. C'était comme ça, c'était... Pendant l'étude.
Ah oui, il y avait
c'est un peu bizarre, putain.
D'accord.
Mais le mec, il essayait de communiquer avec les dauphins avec un casque, enfin, parce que... Un peu bizarre.
Ah, il y avait aussi ce best-seller. Je pense que tu pourrais le lire, cet homme qui raconte son histoire d'amour avec.
Oui. Je suis tombée dessus.
Je te donnerai le lien Amazon.
Puis il y a la chanson aussi. Joli dauphin. Bébé dauphin.
Ils sont mignons quand même quand tu les regardes comme ça. Ok, ouais, mais... ils sont drogueurs, ils aiment un peu le volage, mais quand même.
Comment tu peux faire confiance à quelque chose qui sourit tout le temps ?
Oui, je pense que c'est ça qui fait qu'ils sont... ils ont l'air plus appréciables que d'autres.
Qu'est-ce
races.
Qu'est-ce que t'as regardé ? T'as regardé marine, France 5 pendant maritime. Le confinement ?
Non, en fait, ça fait des années que je voue une haine aux dauphins. Non, en fait, je les déteste pas, c'est des animaux, voilà, mais juste, je comprends pas qu'on les aime autant.
Bah c'est beau quoi.
Ça
c'est très aérodynamique.
C'est mignon, franchement. C'est
des... Oui, oui,
mais les marsouins, c'est joli aussi.
Les requins.
Les...
Ah, c'est stylé.
Ils sont défoncés.
Ouais,
mais, ouais. Ah, mais eux, ils se font
dans,
bien
dans l'absolu, je préfère les raies quoi. Si vous voulez un bel animal, prenez une raie là.
Une bonne belle raie là, moi j'aime bien. J'aime bien voir des photos de raies sur internet.
D'accord.
C'est gênant.
Tu l'as cherché.
Oui, oui.
Je t'ai pas coupé, mais du coup, Zafar, il voulait se taper Jasmine.
Très bien. Merci pour cette belle histoire. Les animaux dans cette émission, c'est toujours bien.
Ah, oui. Juste pour info, c'est pas les seuls. Il y a aussi les...
loutres.
Les loutres, ouais. Ouais. Et, les manchots qui creusent des petits trous dans la glace pour se masturber. Voilà.
Oh, ça va. Ils font mal à personne, du coup.
À part à la glace, quoi. Mais...
ouais.
C'est pas bien méchant. Mm. Ils se droguent, en plus.
Ouais.
Mais on avait un invité, ton collègue, qui nous avait parlé des animaux. Ouais. Il nous avait pas parlé de ça, hein.
Non, il avait il était passé à côté du sujet, bizarrement.
Il était resté soft, ce sujet.
Très bien, très bien. Merci pour cette rubrique animalière. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Récemment, peut-être d'un petit bruit de.
J'en rajouterai au montage. Ça va être à toi, PM, avec une petite interlude.
Oui.
Ils prennent les auditeurs en otage et refusent d'écouter nos revendications. Et pour cela, je vous propose l'interlude.
Un interlude d'actualité.
Un petit peu d'actualité, c'est vrai. Tu veux une petite musique ?
Bah, si tu as, oui.
Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit.
En plus, j'ai choisi celle-ci vu l'actualité pendant le confinement.
Tu vas nous faire une liste des morts du Covid ou quoi ?
Non, du Covid, ouais.
Eh oui, on va se marrer.
Après les dauphins, les morts du Covid.
Le retour du podcast est chaud, quoi. Ouais. Non, je vais vous parler, faire un petit jeu sur des mots de la langue française qui sont peu utilisés ou peu connus. Donc, on va voir si vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, il faudra...
Genre supination.
Par exemple.
Zogma.
Je les ai pas.
Ah, supination, c'est
les deux.
C'est l'action de faire ça.
Ouais, c'est le mouvement
que
de.
J'ai pris dans question pour un champion.
J'allais dire, c'est parce que tu t'es mis à la course.
Non.
Savoir si t'es.
Question pour un champion.
Les gens ne vont rien comprendre. Hein, s'ils n'ont pas vu le geste, du coup.
Supinateur.
Et donc, si vous ne connaissez pas le sens, il faudra essayer de voir si vous pouvez retrouver.
Deviner.
Deviner le. Donc, un exemple classique.
Avec Eric et Ramzy.
Oui, nous ne voyons pas d'autres explications. Philatéliste. Non, apostille, par exemple.
Apostille.
Ah, apostille. C'est de l'architecture, ça.
Non, c'est plutôt dans la littérature, on va dire.
C'est comme.
C'est en rapport avec les choses qui seraient envoyées. Genre les lettres, tu vois, épistolaires, un petit côté comme ça.
C'est lié à du texte, on va dire. C'est lié à du texte qui peut être envoyé ou pas, ou présenté devant des gens.
Apostille.
C'est quand c'est une catastrophe annoncée et écrite. C'est une apocalypse.
Nous ne voyons pas d'autres explications. Non, c'est plutôt, on va dire, c'est par rapport à un texte, donc je vais vous donner la réponse. C'est en fait un commentaire en bas de page qu'on a généralement sur les thèses, sur les textes.
Ah, les notes de bas de page.
Les notes dans la marge, ouais, voilà.
Terry Pratchett est très très fan de ça dans ses œuvres. Ouais.
Le livre La Maison des Feuilles, où il y a des commentaires de bas de page qui commentent d'autres commentaires de bas de page.
C'est trop bien. Mais des fois qui sont presque plus longs.
Qui sont plus longs que le texte qui commente. Bon, bref, c'est très bon bouquin.
Alors, un autre qui est d'actualité, donc, c'est Agueuzy.
Ah, c'est la perte du goût.
Exactement, ouais. C'est souvent, ça consiste à une diminution, d'abord, voire une perte du goût. La perte du goût, c'est l'agueuzy, effectivement. Donc ça, c'est un truc qu'on a pas mal entendu ces derniers temps. Dans les mots qui sont un peu moins connus, qu'est-ce que veut dire ferrailler ?
Battre le fer. Enfin, se battre à l'épée, en fait.
À l'épée.
Ouais, exactement. Mmh. C'est se battre au sabre ou à l'épée. Mmh. Donc, moi, je connaissais.
Croiser le fer, en fait.
C'est ça. Zinzolin. Qu'est-ce que
c'est une insulte, non ?
Non.
Non.
C'est
un instrument.
Descriptif.
De musique.
Ah. Pour moi, genre, c'est dans la même catégorie que les mots genre zbeul, où on dit genre c'est la fête. Enfin, la zinzola.
Ah merde, c'est eux, c'est l'enfoiré qui est là.
La zinzolinade, tu vois.
C'est la zinzinade un peu.
La zinzinade, ouais.
Alors, c'est pas un mot d'argot, hein, c'est un vrai mot de français qui sert à décrire.
Quelque chose.
Ouais, enfin, c'est un qualificatif.
Mais quoi, c'est zinze. Quoi
c'est zinzolin. Plutôt positif ou négatif ?
On peut dire que cette personne est zinzolin.
Zinzoline.
Non. Cet objet
On peut le dire d'une personne qui aurait bu, à la limite, beaucoup.
Ah, c'est qui zigzague en marchant ?
Non. On pourrait dire ça, c'est quelqu'un qui picole de manière chronique, on va dire.
Ah. Un alcoolique.
Il aurait, on va dire, son aspect serait modifié.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a pas genre un nez...
Qui a le nez couperosé ?
Non, c'est plus lié à la teinte de peau, on va dire.
Ah. Et rougeâtre.
C'est marqué ?
C'est un violet tirant sur le rouge.
Ah ouais.
C'est un descriptif.
C'est cramoisi, mais plus violet.
C'est précis, quoi.
Et assez, plus écarlate.
Ouais. C'est. Ouais. Plus.
Bah, c'est entre le cramoisi et l'écarlate, en fait.
Voilà. Mm. C'est entre le rouge et le rosé en termes de vin.
Avec un peu de cinnabre sur le côté, tu vois.
Alors, un autre mot, qu'est-ce que. Alors, ça, on pourrait tous le connaître, je pense. Je ne sais pas si on dit un ou des châssis. Enfin, châssis, pardon. Mais c'est pas un châssis de
voiture.
Ouais.
Châssis. Oh,
c'est quelque chose qu'on a, je pense, tous, à un moment donné dans la journée, globalement plutôt le matin.
Genre le coup de barre. Ah. Non, le matin.
La goule du matin.
Qui va la dire, barre,
j'ai dit tous. Toutes. Ça,
toutes.
Ouais, voilà, toutes.
Ah
toutes
bah,
et tous.
Oui, alors...
On pue de la gueule.
Non,
l'envie
non.
de se gratter l'entrejambe.
Alors, l'action de se gratter peut être utile pour éliminer
de crotter le nez.
Les crottes de l'œil.
C'est exact, c'est ça. Les crottes
de l'œil.
Ah, chasie.
Ouais, c'est la substance gluante et jaunâtre qui s'accumule sur le bord des paupières.
Mmh. Ça s'appelle pas une crotte d'œil donc.
Non.
Le caca de l'œil.
Les gens qui disent picousse.
Ouais, des picousses, ouais.
Ah ouais, non, je sais pas ça.
C'est très breton ça. C'est très finistérien, il me semble.
C'est ça.
Être enchifréné.
Waouh.
Je sens que vous êtes inspiré.
Pouvons-nous l'avoir dans une phrase ? Je suis enchifréné, ça nous avance pas.
Ça peut arriver, je pense que c'est globalement plutôt... Alors, tout le monde, toutes et tous, peut être dans cet état-là. C'est plutôt en hiver, a priori.
Ah, c'est la dépression.
C'est quand on a un petit peu le nez qui coule ?
Non, mais on n'est pas loin.
Quand on est flagada ?
Non.
La petite déprime hivernale ?
Non, mais t'étais sur la piste, yo, avec le nez qui coule.
Quand t'as mis
un
une cagoule.
Un petit peu enrhumé, mais pas trop.
C'est ça, c'est avoir le nez bouché à cause du rhume.
D'accord. Enchifréné.
Enchifréné, ouais.
Ah, j'ai hérétisé ça.
Alors, pas facile à placer quand même, mais bon, ça peut être marrant.
Tu voir ton médecin. Puis,
docteur, je suis enchifréné, docteur.
On peut faire quelque chose.
Puis j'ai des chasis.
C'est ça, des énormes.
C'est clair. Et en plus, je fais de la gueusie, je comprends pas. C'est bizarre. Je fais aussi l'anosmique.
L'anosmique.
Je fais de là ou je fais là.
Bah, c'est le fait de pas sentir ça.
Ouais, c'est ça.
C'est quand tu perds le. J'ai appris dans Scrubs.
Quand tu perds quoi ?
L'anosmie, quand tu perds l'odorat.
L'odorat.
Ah oui, c'est le goût et l'odorat, c'est deux trucs différents. Quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'un ou une gastrolâtre ?
C'est quelqu'un qui.
Ça n'est que des termes français, mais qu'on.
C'est quelque chose qui a à voir avec le ventre. Ou...
Ouais, tout à fait.
Les petits gargouillis du ventre quand on a faim ?
Non. Alors, on n'est pas sur une maladie là. Hein. Enfin, non.
Est-ce que c'est quand on a un petit ventre ?
Ça peut être la conséquence.
Genre le dad bod, un truc comme ça.
Ça peut être la conséquence. Le petit ventre, c'est la conséquence des personnes qui sont comme ça, qui sont gastrolâtres.
Ils n'ont pas d'abdos.
Qui sont constipés.
Non. Donc,
qui font du gras du bide.
Gastrolâtre, donc il y a le terme gastro qu'on peut
approcher.
Les intestins, c'est l'âtre. quand t'as une. L'âtre. Une hernie des intestins.
C'est pas ceux qui fermentent dans leur ventre.
Non, enfin non.
C'est quand
pas
t'es
ça,
constipé.
C'est non plus. C'est quelqu'un qui. Je peux pas trop en dire non plus, mais c'est quelqu'un qui a une passion.
Une passion.
Ils aiment beaucoup manger.
Bah c'est un peu ça. C'est une personne qui voue un culte passionné à la bonne bouffe.
Ah,
c'est un bon vivant.
C'est ça.
Ouais.
C'est juste ça quoi.
Gastrolâtre, un peu comme idolâtre.
Ouais.
Non peut-être.
C'est ça ouais. Je pense c'est même.
Je dirais plus gastronome, mais bon, on peut dire gastronome.
Ah mais ouais, je pense que gastrolâtre, t'as vraiment le
côté quantité.
Ouais puis il y a le côté un peu pédant quoi, tu vois.
Ouais. Gastrolâtre avec 50 kilos de purée.
Gérard Depardieu, il est gastrolâtre sûrement.
Je pense ouais.
Il y a des chances. Alors, je ne sais pas au niveau du temps. Sinon, méliflu.
Hein ?
Qu'est-ce que veut dire méliflu ?
Méliflu.
C'est quand... Ça vient du miel ?
C'est lié, ouais, tout à fait.
C'est un mélange de quelque chose ? Non.
C'est ce que c'est comme pétireux.
C'est
comme quoi ?
Pétireux. Ce qui rapporte au beurre.
Ah mmh. Non, mais c'est en mi-chemin entre les deux, quoi. Enfin, il y a deux idées qui.
Méliflu. C'est pas quelqu'un qui a une voix toute douce
c'est
comme
un,
ça.
Un médicament.
C'est effectivement.
C'est des paroles de miel, en fait.
Tu sais ce que c'est ou pas ?
Non, ouais, je pense que c'est. Je l'ai déjà entendu, je pense.
Ouais,
mais,
ouais,
mais
voix
voilà.
Mielleuse.
Une voix, c'est, ouais, c'est ça, qui a la douceur du miel. Non.
Comme ta voix.
Moi, c'est l'adjectif du miel. C'est l'adjectif qui correspond au miel, en fait.
Méliflu, alors.
Méliflu.
Alors, une petite dernière. Yalin. Bon, c'est facile, ça.
Yalin.
Ouais, non.
Yalin.
Ah ouais, d'accord.
C'est Calogero, ça, qui chante ça.
Yalin.
Yalin, c'est pas quelque chose de.
Yalin Madelin. Et quand tu.
C'est pas.
C'est vraiment une émission de vieux.
Yalin Juppé. c'est quand t'as un Alain qui va faire un meeting Yalin, et puis t'as les gens, Hey, Yalin.
Yalin, là. Et c'est pas en référence, par exemple, à quelque chose de salin, quelque chose de Yalin.
Non, 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 c'est plus lié à l'aspect des choses aussi. Quelque chose de Yalin, c'est.
C'est comme un câlin, mais avec un i.
Ça pourrait. Mm. Ça pourrait, mais c'est plus lié aux fenêtres, on va dire. Ouais, c'est ça. Transparent comme le verre.
C'est super fort, Thio. Franchement, t'en as deviné énormément.
Ouais. Mm. Elle voit ce que je fais.
Alors, tes lunettes,
il
mon Dieu.
Il a eu son ordinateur ouvert et il a fermé pour pas que je lise. que je triche.
Je te connais.
Donc, je n'ai pas triché.
Bon, allez, une petite dernière, mais dans les phobies. Dans les phobies, alors qu'est-ce que la phobie de téléphonophobie ? Ça paraît facile, mais je veux être précision.
Là, basiquement, on a envie de dire la phobie de répondre au téléphone.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je pensais que c'était, vous alliez dire la phobie du téléphone, mais c'est de répondre au téléphone.
La peur de répondre au téléphone.
Ouais. Bon, voilà. J'en ai d'autres, mais.
Moi, ça m'a donné une idée, mais ce serait complètement l'inverse. Ce serait que vous me donniez des définitions de mots très très simples, genre la couleur orange. Définissez-moi la couleur orange.
Eh bien, c'est-à-dire que c'est.
Eh ben ouais, c'est pas évident.
C'est un peu du rouge, mais en
mélange entre rouge et.
Définis-moi le ciel.
Alors, c'est comme un plafond, mais vachement haut, quoi.
Et il y a aussi un genre, c'est pas en allemand, où ils ont énormément de mots pour définir des...
C'est une super idée. J'avais un petit marqueur au montage, genre...
Ah, c'est une
bonne idée.
À retenir.
Oui, j'ai oublié de dire quand même qu'il n'est pas négligeable, parce que j'ai pris mes sources sur un compte Instagram qui est très bien. Ah. Je vous conseille, c'est Alexis Nantes.
Alexis Nantes.
Ouais, okay. Alexis-Nantes.
Tu me donneras le petit...
Ouais. Ça marche.
Libellé,
c'est
je dans le...
super intéressant. C'est sur la langue française, c'est assez rigolo.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la suite avec les 6 pages de Shoutan, il me semble.
Ouais, c'est ça. Non, il n'y en a pas de 6.
Pas 6.
Alors, moi, je vais vous parler de jeux vidéo. Je pense que vous avez dû voir passer l'info, c'était au début du confinement, souvenez-vous. Touloulou, touloulou, touloulou. L'un des jeux les plus attendus depuis au moins 10 ans sortait enfin. La première partie du remake de Final Fantasy VII. Une réimagination de l'original sorti en 3 après AS, mais qui a suffisamment d'ajouts et de twists pour surprendre même les joueurs ayant retourné le tout premier. Mais je ne suis pas là pour vous parler de Final Fantasy VII remake, non. Mais bien du tout premier, et comment... À sa sortie, ses concepteurs avaient un peu sauté le requin en planquant ici et là des trucs complètement improbables que par un souci de compréhension, on va appeler de manière très large des « quêtes secondaires » avec de très gros guillemets. Bon, pour autant, avoir des bidules planquées dans les RPG, c'est pas forcément quelque chose de rare. Hein. Dans le principe, on se balade de ville en campagne en déboulonnant des méchants dans une quête épique pour sauver le monde tout en farfouillant un peu partout pour dégoter armes, objets et bidules en tout genre, rendant la progression plus variée qu'un simple tabassage de monstres en ligne pour faire monter des statistiques. Simplement, dans FF7, on était passé à un niveau rarement atteint dans la furtivité des quêtes, leur déroulement énigmatique et leur résolution parfois étrange, mais souvent, sinon décevante, au moins, elles laissaient le joueur impliqué très dubitatif. Faut voir aussi qu'on est dans une conception très japonaise du jeu, là où les RPG occidentaux vont nous proposer des objectifs clairs et précis, même à l'époque en fait, hein, Baldur's Gate n'est pas très loin, où tout est bien rangé comme il faut dans un beau journal de quêtes, en vélin et où on est prévenu par un petit bidule clignotant ou un jingle prévenant de l'avancée dans les quêtes, comme dans Planescape Torment par exemple. Updated my journal. Ce son indiquait qu'on avait progressé dans l'histoire ou dans une quête secondaire. On avait tué 50 rats par exemple. Dans Final Fantasy VII, rien de tout cela. D'ailleurs, rien ne prévenait qu'on avait déclenché une quête secondaire. Tout était organiquement lié et les mécaniques de jeu ne permettaient jamais vraiment de savoir si vérifier un prospectus était oui ou non un déclencheur de quête. Un exemple, bah tout simple, hein, je parlais juste avant de prospectus, lire des trucs dans un RPG c'est vraiment basique, il y a des panneaux partout, des bouquins qui traînent, des journaux, de gros méchants avec des codes planqués, etc. Bon, et des pubs, un peu partout dans le jeu, on peut croiser des affiches pour le Turtle Paradise, des pubs pour un bar qu'on peut atteindre qu'après avoir traversé deux continents et récupéré un avion. Et pourtant, les six affiches se situent à des endroits parfaitement saugrenus, et souvent inaccessibles après en être parti. Et qu'est-ce qu'on gagne après avoir lu ces six affiches ? Des objets qui augmentent les statistiques des personnages et un mégalixir. Un objet pratique qui rend la vie et les magies à tous les bonhommes pendant le combat. Un peu tout ça pour ça. Et encore, c'est une des quêtes les plus simples, autant à trouver qu'à réaliser. Parmi les quêtes les plus évidentes, on peut trouver le recrutement de deux personnages optionnels du jeu, Yuffie et Vincent. Yuffie est assez simple à trouver. Il suffit de la battre au combat, on peut la croiser assez facilement en traînant dans les forêts entre Fort Condor et Junon, hein, vous voyez exactement de quoi je parle. Une fois celle-ci battue, il suffit de lui parler et de bien répondre aux choix proposés. Les choix sont assez logiques et même si on se trompe, il suffit de retomber dessus pour recommencer la série de questions. Et Yuffie se joindra ensuite au groupe. Pour le deuxième personnage, c'est un peu plus compliqué. Quand dans l'histoire principale, on arrive à Nibelheim, on peut visiter un manoir, qui est un endroit tout à fait optionnel à ce moment du jeu. Dans ce manoir, on va trouver des bouts de papier indiquant l'endroit où on peut trouver un code pour ouvrir un coffre-fort. Ouvrir le coffre-fort nécessite un excellent timing car il faut entrer le code dans un temps limité et ne pas dépasser le chiffre voulu car on ne peut pas revenir en arrière. La combinaison du coffre-fort est la suivante. Droite 36, gauche 10, droite 59, droite 97 pour vous donner une idée. Une fois le coffre ouvert, un combat plutôt difficile à ce moment du jeu se déclenche et une fois l'ennemi vaincu, on récupère quelques objets. Une invocation, une limite pour un des personnages, je reviendrai sur les limites un peu. Et une clé. La clé permet d'ouvrir une pièce secrète au sous-sol, dans laquelle se trouve Vincent, endormi dans un cercueil. Il faut lui parler, puis quitter le sous-sol, et il rejoindra le groupe à ce moment-là. Alors que rien n'indique qu'on a réussi ou quoi que ce soit. Bon, tout ça reste assez logique. Et d'une certaine façon, ce sont des personnages un peu cachés, et si on sait à peu près où ils sont, on peut par déduction et par chance les trouver. Mais c'est pas tout. J'ai mentionné la limite trouvée dans le coffre. Les limites, ou limit break en anglais, ou transcendance dans la nouvelle traduction, ce sont des attaques ou coups spéciaux très puissants qui se déclenchent quand la barre de limite est remplie. Chaque personnage en a au moins 4, répartis dans 4 niveaux de puissance qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure, en les utilisant et en tuant un certain nombre de monstres avec les personnages. Sauf le quatrième niveau. Celui-ci s'obtient en trouvant un objet planqué quelque part dans le monde, comme par exemple le coffre du manoir de la Shinra, qui contient la dernière limite pour Red 13. La plupart sont relativement simples à trouver, et logiques. Pour Barrett, elle se trouve dans sa ville natale, après un événement important. Celle de Cloud s'échange contre une fortune au casino. Celle de Yuffie dans sa ville natale, après avoir vaincu plein d'ennemis dans une tour de bagarre, etc. Mais celle de Tifa et d'Aerys, ça c'est une tâche particulièrement ardue. Voire impossible sans Internet. La limite de Tifa s'obtient en jouant du piano. Mais attention, c'est un brin craqué. Après avoir quitté Midgar au début du jeu, après 5 ou 6 heures de jeu quand même, on a un flashback à Nibelheim, où il faut aller dans la chambre de Tifa et jouer du piano. 20 heures plus tard, il faudra retourner au même endroit et rejouer cette mélodie. En tapant sur les touches, dans l'ordre avec les boutons de la manette. Donc croix carré, triangle, R1 plus triangle, R1 plus carré, croix carré, triangle, R1 plus croix, rond, croix carré et croix. Donc ça fait le thème de Tifa. Tifa reconnaît alors l'air et ouvre la partition et trouve un message expliquant comment elle est arrivée à Midgar après l'incendie de la ville et sa limite ultime. Voilà. Donc ça, c'était encore plutôt simple, hein, puisque bon, on se dit le piano, tout ça, tout ça. Mais il reste la limite d'Aerys. Alors, bon, déjà, Aerys, il lui arrive un truc à la fin du CD1. Donc, il faut pouvoir avoir monté la puissance du personnage avant la fin du CD1 et d'avoir débloqué les 3 niveaux de limite du personnage. C'est un soigneur, donc tuer des ennemis avec elle, c'est compliqué. Ensuite, il faut avoir récupéré le buggy, donc un moyen de locomotion qu'on obtient sur le deuxième continent du jeu. Et il n'est jamais expliqué qu'on peut amener ce buggy au port, prendre le bateau avec et l'utiliser de l'autre côté de l'océan. Bon bah faut faire ça. Avec le buggy, on peut traverser les étendues d'eau peu profondes à gué. Donc il faut se rendre dans une grotte qu'on a très peu de chance de voir à notre premier passage dans le coin. Bon, c'est pas très loin des forêts où on peut trouver Yuffie, mais la grotte est cachée, enfin voilà, c'est le bazar. Dans cette grotte, on trouve un gars endormi qui parle dans son sommeil. Il dit parfois des choses différentes si on ressort et qu'on retourne dans la grotte. Et parfois, il parle du nombre de combats effectués. Il faut venir lui parler quand le nombre de combats effectués se termine par deux chiffres identiques et impairs. 377, 255, 111 ou un multiple de 100. Bon, déjà, faut le savoir. Quand c'est le cas, le type nous file un bout de mithril. Si le chiffre est pair, on obtient un autre truc. C'est-à-dire, c'est fait 322, bah, t'obtiens un autre truc. Bon. Une fois ce bout de mithril obtenu, il faut reprendre le buggy, reprendre le bateau, retourner dans une baraque perdue au bout d'une presqu'île où un autre bonhomme proposera d'échanger le mithril contre le contenu d'une boîte au choix entre deux. L'une des deux boîtes contient une armure achetable facilement ailleurs, mais l'autre contient la dernière limite d'Aeris. Voilà. Pourquoi, comment, ce n'est jamais expliqué. Voilà. Des exemples de circonvolutions pénibles pour ajouter du contenu à un jeu et du mystère aussi, surtout. Maintenant, bon, même les jeux japonais se sont rangés, ont réussi à bien classer les quêtes dans un joli journal, et même, elles sont numérotées. Le luxe dorénavant prévoir des quêtes du genre est tout à fait inconcevable. Les joueurs de maintenant ne veulent pas passer à côté de quelque chose lors de leur premier parcours du jeu, et il semble difficile de justifier la mise en place de ressources dans la création de contenu que personne ne verra. Tant il faut que chaque centime investi se voie. Dans tous les cas, moi j'aime bien que les jeux, on ait quand même un petit peu de mystère et que tout ne nous soit pas balancé en plein visage tout le temps. Mais là, je trouvais que c'était un petit peu extrême quand même. Il y a fort à parier qu'évidemment, toutes ces galéjades partiront au feu dans là où les suites du remake, mais s'ils arrivent à les conserver tout en les contextualisant, bah, j'applaudirais.
Quête de psychopathe quand même.
Un petit peu.
Mais est-ce que tu as à peu près 3h30 pour nous expliquer la quête du chocobo d'or, s'il te plaît?
Ouh là là, ouais, bon, alors celle-là, bon, celle-là encore, elle est assez...
Quand t'as 7 ans,
oui,
que t'as juste deux pages de magazine photocopiées,
ouais,
c'est pas évident.
Non, il faut faire de l'élevage de chocobos.
Ouais,
voilà.
Faut faire de. Ouais, t'es un vrai petit éleveur.
Ouais.
C'est ça, moi, enfin, j'ai deux questions. C'est que du coup, ces quêtes-là, à l'époque, elles étaient connues ou il a fallu attendre un petit peu quand même Internet pour en apprendre certaines? Et la deuxième, c'est est-ce que dans le remake, du coup, il y a un petit peu répondu, ils ont un peu reproduit ce genre de choses ou pas du tout?
Alors, dans le remake, ça va pas suffisamment loin pour qu'on puisse savoir ce qu'ils vont,
ouais,
en faire.
D'accord.
À l'époque, je crois me souvenir qu'il y avait déjà GameFAQs, qu'il y avait déjà des gens qui avaient retourné le jeu et épluché les...
Ouais.
Alors, il me semble quand même que tu avais des guides, les guides Prima ou les trucs comme ça, à l'époque, qui étaient déjà sortis et qui expliquaient à peu près comment faire, même s'il y avait souvent des erreurs de traduction. Et le jeu en lui-même, en français, était extrêmement mal traduit.
Ouh.
Donc il y a des choses qui étaient perdues dans la traduction.
C'est pas vraiment une quête, mais ça me fait penser à un truc comme ça qui était ajouté vraiment pour créer du mystère. Et ça rendait presque fou parce qu'on n'avait jamais d'explication dans le jeu. C'était dans Perfect Dark. Il y avait moyen de regarder parfois dans des angles de décor et on pouvait voir qu'il y avait une part de fromage posée. Et
trop bien.
On ne savait pas qu'est-ce qu'elle foutait là et on la retrouvait régulièrement dans les niveaux, dans des endroits un petit peu cachés, un petit peu secrets, qui demandaient parfois de péter un truc, de rentrer dans un espèce de conduit et tout ça, et tu tombais sur cette part de fromage, tu pouvais rien en faire, mais ça existait et tu te posais la question jusqu'à la fin du jeu, mais qu'est-ce qui... Voilà quoi. Donc...
Ah oui, effectivement,
ouais, ouais,
un,
ouais,
petit bout de minster.
Le fromage caché.
C'est ça.
Ah, un petit bout de gruyère. Bah, donc,
des
et on connaît pas. Ouais, c'est du délire de.
Ouais, alors j'ai pas cherché. Peut-être que maintenant, effectivement, les développeurs se sont exprimés là-dessus. Mais oui, c'est.
Après 15 ans, les gens veulent savoir.
Bah, c'est ça.
Très bien. Eh ben, merci, Shooten.
Mais de rien.
Merci.
On va continuer. Je crois que c'est à moi, si je dis pas de bêtises, avec une petite interlude. C'est parti, avec mon jingle. Merci, Cuberteuil.
Je suis l'interlude.
Eh oui, c'était mon plus grand rôle sur Internet. J'ai ma page IMDB en tant que la part de pizza de Podren, bien sûr. Voilà. On va faire un petit jeu au pardi, hein, classique. Vous connaissez le principe, hein, je vous donne la réponse, vous me donnez la question. Et je dirais même un rétro-pardi, parce que vous allez voir, ce sont des actualités qui sont soit récentes, soit ces derniers mois, parce que j'ai recyclé quelques trucs. Il y a 2-3 bricoles sur le coronavirus, le confinement, on ne peut pas y échapper. Hein. Et je n'ai pas beaucoup d'actu, mais ce n'est pas plus mal, parce qu'on va sûrement passer un peu plus de temps pour les débriefer. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
C'est parti.
Go.
Et le jingle est rétro aussi. J'aime bien cette version. Alors, la première réponse, elle est très simple. 55 jours.
La durée du confinement.
Ouais. Voilà. Combien de temps a duré le confinement?
Oui. C'était, voilà. C'était pas 8 ans plutôt? Parce que ça m'a paru très long.
À la fin, l'éternité. Le confinement, c'était longtemps. Enfin, c'était long, surtout à la fin.
Combien de temps? J'aime bien sur Twitter voir des gens qui disent confinement jour avec le jour du jour même. Quoi. Ouais. Mais ils sont toujours pas déconfinés, quoi. C'est assez drôle.
Pierre-Emmanuel Barré avait fait un très bon journal de confinement.
Ah oui, ouais.
Réponse suivante. C'est un petit peu mesquin, j'avoue, mais en application de développement personnel.
Ah, en quoi a été transformé Magellan?
Voilà,
exact.
En quoi l'application Magellan s'est reconvertie? Bon, on en reparlera après.
Oui.
Réponse suivante. Bah justement, elle est vite répondue.
Ah bah c'est
la dernière vidéo qui buzz sur les réseaux. Ouais.
Ah moi la question, j'attendais plus comment est la question parce qu'elle est vite répondue, mais j'accepte. Réponse suivante.
Ah bah merci pour les vélos. Hein.
Ouais, bah on en reparlera de toute façon. Juste après la réponse, bon peut-être que vous avez lu, Oggy.
Et des cafards?
Non.
Non.
C'est pas Marc Dupont-Avis.
Oggy, c'est aujourd'hui en italien.
Oggy, non, on en revient, on en reparlera après, c'est pas grave.
Oggy Osborne.
Suivante avec de la javel.
Comment combattons le coronavirus
bah d'après Donald Trump?
Ah là, c'est ça que j'attendais. Je voulais Donald Trump. Avec quoi Donald Trump préconisait-il de se soigner du coronavirus? Et enfin, dernière réponse à. C'est tout frais. 95 euros seulement.
Ah, combien coûtait la PS4 vendue dans le nouveau magasin Lidl?
Enfin, bravo, bonne réponse.
Enfin non, finalement, elle n'a pas été vendue.
Oui, en fait, non.
Non, mais alors, sacrées histoires hein, cette semaine, enfin ces derniers mois même. Par exemple, alors je ne retrouve plus ma souris, c'est l'inconvénient d'avoir trois écrans. Par exemple, bon, 55 jours de confinement, on sait, mais... Ouais. L'application de développement personnel de Magellan, si vous avez tu veux suivre ça, Joutan?
Non, tu n'as pas. Moi, je suis que de Gamma, moi, je suis pas Magellan. Oui, bon.
Alors, après un an à vouloir disrupter le podcast, entre guillemets, ils arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas et parce que ça marche pas. Et ils se lancent dans le développement personnel parce que ça a bien marché ces derniers mois avec le confinement, les gens, voilà. Voilà, c'est juste Magellan hein, qui se sont pris une petite tape derrière les
ouais, armes. Mais ils ont toujours eu des sous, hein.
Ouais, voilà, donc...
Ils passent en full payant, pour le coup...
Ils passent en full payant, ouais. Ouais. Donc ils se sont servis des podcasts gratuits pour faire monter leur application, ouais. Voilà, et puis un an après, ils font « Ah, on arrête, on va faire du développement personnel parce qu'on a remis le why au centre de nos préoccupations », comme ils disent.
Oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup tourné.
Voilà. Alors, elle est vite répondue la question. Bon, vous avez vu cette vidéo virale, je dois la voir quelque part.
Salut à toi, jeune entrepreneur.
Ouais,
non, c'est bon, on a déjà vu.
On la connaît par cœur.
Vidéo virale de ce jeune homme qui vante sa success story, les montagnes d'argent qui se fait. Donc, dans son petit costume tout serré, en pingouin, là. Son 4x4 de location, voilà. Donc, vous l'avez vu cette vidéo.
Bien sûr.
Voilà. Au final, on va l'avoir tellement regardé qu'il va s'être fait un max de
fou. Mais grave. C'est justement, c'est gagnant-gagnant. C'est ça, parce que t'as tous ceux qui sont moqués de lui et qui ont fait leur petit RT. Voilà. Et t'as lui qui se fait sûrement sa petite pub. Voilà.
Il continue à poster des vidéos. Ouais. D'ailleurs, il en a fait une hier.
Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a remis en lumière des articles et des enquêtes sur ce genre de vidéos.
Oui.
Et en fait, c'est des influenceurs qu'on retrouve spécialisés, entre guillemets, dans le trading de crypto-monnaie.
Voilà. Oui. Oh putain, ça met la confiance.
Le but de ces vidéos, c'est de faire miroiter à des jeunes de l'argent facile pour qu'ils s'inscrivent à un programme où ils vont payer 300 euros par mois, des conseils, des coachings en trading. Et voilà, et que même ces jeunes recrutent 10 autres personnes.
C'est une chaîne de Ponzi en fait.
Voilà, c'est une arnaque pyramidale. Voilà. Et donc ça a eu le mérite de remettre ça en avant.
Alors ce qui est quand même assez particulier avec cette vidéo, c'est que il reste un petit doute que quelque part ça soit ça soit presque une blague en fait, sens où en fait justement ce programme, on le trouve pas, il en parle pas plus que ça, hormis le rejoindre sur les réseaux sociaux, il promet rien.
Il a rien à vendre en fait
de particulier quoi.
Je crois.
Donc c'est voilà.
Alors, y a
peut-être
eu
que dans quelques mois on apprendra
qui,
que c'est un mec
qui annonçait j'ai plus le nom en tête, mais le nom d'une entreprise qui était rattachée à cette vidéo.
Okay.
Mais bon.
Mais lui, il a été interviewé. Il disait que c'était plus une blague, soi-disant.
Ouais, soi-disant.
Enfin, déjà avec une phrase comme je crois que la question est déjà répondue.
Je pense qu'il a vu que ça avait tiqué là-dessus et du coup il en joue. Donc,
oui, c'est ça.
Mais je pense que c'est un peu le connard de Schrödinger, c'est-à-dire que si on le prend pour un connard, en fait, non, c'était une blague, tu vois.
J'ai cru que c'était un Michael Vendetta 2, quoi. Mec qui vend du vent, quoi.
Oggy, justement. Vous vous rappelez pas d'Oggy?
Ouais. Oh. Non.
C'est le plus beau chat de Rennes qui a été vu pendant le confinement sur la page Facebook. Bon, voilà, on passe.
Il il avait rien d'exceptionnel à ce char.
Moi, le chat de Nemo est vachement plus beau.
Oui, voilà. Avec la Javel, à quoi Donald Trump préconisait-il de se soigner du coronavirus? Eh ben, justement, moi, ça m'a rappelé cette vidéo, peut-être ma vidéo préférée du confinement, que je Javel.
Heureusement qu'il est là, ce Trump, on rigole bien.
Ouais.
Enfin, on essaye d'en rigoler, quoi.
Dans les hypermarchés, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions.
Avant, je les lave qu'avec de l'eau. Maintenant, c'est au Javel aussi.
Voilà.
Mais il y a des gens que je crois qui se sont intoxiqués, voire même qui sont morts.
Aux États-Unis,
en ingérant des produits comme ça.
Alors, mais justement, j'ai fait une petite veille sur ces prétendus remèdes de grand-mère, bien sûr, parce que c'est toujours rigolo. Alors, pêle-mêle, boire de l'alcool, ça marche pas. Les décoctions d'ail, ça marche pas.
T'es sûr de ça ?
Prendre un bain chaud, ça ne marche pas. Ne manger que de la viande de bœuf, ça ne marche pas non plus.
Ça marche pas contre quoi ?
Le coronavirus.
Okay, okay.
Le fenouil, ça ne guérit pas du Covid. Et là encore, c'est les remèdes safe. Il y a eu pire. Alors, consommer de la cocaïne, ça ne guérit pas du Covid. Le chlore, ça ne marche pas. S'injecter de la Javel ou boire l'urine d'un nouveau-né, ça ne marche pas.
D'un nouveau-né.
De nouveau-né. C'est quoi la tranche d'âge? Parce que...
Je sais pas, mais apparemment, c'est magique.
Bref, né vraiment là, quoi. Ouais. Voilà. La première urine.
Et encore, il y a eu pire.
Jouer au foot avec un marsouin, ça
ne marche pas non plus. Tu vois.
Alors, on en rigole, mais il y a des choses comme ça qui existent sur le sida, notamment. Dans certains pays africains où on explique qu'en fait, pour te débarrasser du sida, il faut que tu aies des relations sexuelles avec une vierge.
Ah, d'accord.
Ouais, bah oui.
C'est presque le mysticisme, en fait.
C'est ça.
C'est, ouais.
Un peu comme les rétrécisseurs de sexe, en fait.
Il y a eu une affaire il y a pas longtemps.
Les rétrécisseurs de sexe, mais oui. Je note. Vous me le ferez.
Quelle idée géniale.
Il y a eu pire au niveau de ces remèdes, mais bon, en fait, ça fait sourire, mais on voit des communications officielles des agences de santé qui disent « Ne vous injectez pas de la Javel, ne buvez pas l'urine d'un nouveau-né, attention, pas forcément en France, mais dans d'autres pays. » Puis il y avait une vidéo, c'est le docteur Trotta. Alors je suis allé voir le docteur Trotta, il expliquait qu'il fallait couper un oignon et le mettre sur sa table de nuit pour guérir
du coup, non, mais
d'accord.
Voilà. Et en fait, j'ai cherché Docteur Trotta, c'est un mec qui est radié de l'ordre des médecins et qui est obligé de se domicilier à Saint-Sébastien, à la frontière espagnole, pour pouvoir se faire appeler médecin. Voilà, bref.
Mec, il est autant docteur que le professeur machin. Là.
Voilà, c'est ça. 95 euros, bon, les PS4, encore une bien triste histoire de notre ère moderne. Ouverture d'un Lidl, pas loin de Paris, on annonce mettre en vente des PS4 à 95 euros. Ça coûte combien une PS4? Je sais pas.
300 balles, ouais.
Ouais, donc 3 fois moins cher. Donc voilà, du coup, ça ramettait pas mal de monde, attiré aussi par l'appât du gain, parce qu'il y a des gens qui voulaient revendre ces PS4.
Ces gens ne respectaient pas les limites à distance
donc
sociale.
Certains sont arrivés dans le magasin à 2h du matin, une heure avant, il y avait 100 personnes qui attendaient. Le magasin a fait machine arrière, ça a commencé à gueuler, les gendarmes arrivent, ça a gazé de partout.
Ouais. Et les gendarmes se sont auto-gazés.
Ouais. Bien sûr, BFM était là, oui, voilà. BFM était là aussi pour faire ces petites images, parce que
Il faut bien manger hein, quand on est chez BFM.
Voilà, c'était une petite revue d'actu de ces derniers jours.
Ah, c'est vraiment... Voilà. Je trouve ça scandaleux, moi, qu'on fasse du cirque de pauvres. Enfin, c'est parce que c'est... Enfin, sans aucune... aucun mépris ou quoi. Ouais. C'est vraiment comme ça que c'est considéré, quoi. C'est regarder les pauvres. Ouh.
Ah bah, enfin, voilà, oui. Toutes les chaînes d'info continuent, elles ont fait leur beurre là-dessus. Elles étaient bien contents d'avoir des petites images. Et de... Bref, je trouvais ça aberrant. Voilà, ça va être à qui ? Ça va être Monsieur l'Ours qui va nous faire un petit... Ah bah, je vais laisser le jingle le dire. Prenez-la, mon vieux. Toulou,
toulou, toulou. Vous avez la parole. Effectivement, on va revenir un petit peu derrière les anecdotes technologiques. Comme j'aime bien faire, et puis c'est un peu la droite lignée de ce que je pouvais dire la dernière fois, puisque la dernière fois on avait parlé, rappelez-vous, de matte painting et puis l'évolution de cela avec du coup des écrans OLED qui recréaient des décors intégraux autour des acteurs, etc. etc. Ça m'a fait penser à un autre sujet et que je trouve assez passionnant dans ce que ça peut impliquer dans le futur du cinéma, c'est cette capacité que l'on a à générer des acteurs virtuels. Alors, si on revient un petit peu dans le passé, déjà la première surprise que j'ai eue, c'est de me rendre compte que la technique était super vieille. C'est-à-dire qu'elle est tellement vieille qu'en fait, il faut remonter à moins de 100 avant AS pour trouver la première... mention en fait d'une technique approchante qui donc s'appelle la chronophotographie, qui était une technique inventée par Étienne Jules Marais, donc un Français, Et il l'a fait à des fins médicales, en fait, c'est-à-dire que via une technique photographique d'image par image et en positionnant des éléments réfléchissants sur une personne, il photographiait donc cette personne en train de se déplacer et ainsi il pouvait recréer la démarche de cette personne et analyser la démarche et donc vraiment corriger cette démarche ou en tout cas l'étudier à des fins médicales. C'est la première, on va dire, motion capture de l'histoire de cette technologie. Déjà, c'est intéressant. Et ensuite, bon, il faut aller 100 ans plus tard pour voir le premier comédien virtuel animé par cette technique. Donc, ces techniques, c'est effectivement la motion capture en premier lieu, c'est-à-dire donc le fait que l'on ait pu, via des techniques informatiques, analyser le déplacement physique d'une personne et le retranscrire pour coller un personnage en 3D dessus. Il faut savoir, par exemple, que en fait, avant, tout ce qui était acteur virtuel était animé à la main. Tout ce qui est dans les premiers Pixar, et puis même encore aujourd'hui, c'est vraiment des animateurs, comme dans les dessins animés, qui animent les personnages. Et un jour, ils se sont dit, quand ils ont commencé à vouloir aller dans le photoréalisme, ils se sont dit, et si on s'inspirait en fait des vraies personnes pour créer ces acteurs virtuels, et plus seulement les animer à la main. Gollum, par exemple, du coup, est un super exemple de la mixité de ces techniques-là, puisque ça se base sur Andy Serkis, qui a donc fait de la motion capture pour tout ce qui était déplacement du personnage, etc. Et derrière, les animateurs ont peaufiné la performance de Gollum, notamment du coup au niveau des traits de son visage. Et donc, il y a eu vraiment un mix de ça. Ensuite, la motion capture, donc c'est vraiment le premier niveau de ça où on va vraiment prendre la silhouette. Donc ça reste relativement général, on n'est pas trop dans la finesse des expressions, du jeu de l'acteur. Et très vite, il y a des gens qui se sont dit, ok, c'est cool, on a le corps, mais c'est vrai que ça serait bien qu'on ait le visage. Et donc ils ont fait de la facial motion capture pour vraiment, là, pour le coup, récupérer le visage des acteurs, notamment... Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Elle est noire qui a quasiment entièrement est basé sur ce principe puisqu'ils ont récupéré la motion capture du visage de vrais acteurs et dans le jeu il faut grâce au jeu des acteurs reconstituer savoir si la personne ment ou dit la vérité en tant qu'inspecteur dans le LA des années 30. Donc là, on a le visage d'un côté, on a le corps de l'autre, on continue à avancer dans les années et puis on arrive à la performance capture, qui est donc là la totalité, c'est-à-dire qu'on va capturer à la fois le physique, la démarche, le corps, et aussi le visage de l'acteur. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo. Si certains qui nous écoutent ou autour de cette table ont fait, par exemple, les Uncharted ou The Last of Us, qui sort là très, très bientôt sur PlayStation, c'est vraiment des jeux qui ont énormément basé leur... le réalisme de leurs personnages sur la performance capture en allant jusqu'à du coup faire jouer des scènes entre les acteurs et du coup recréer comme ça ce réalisme et cette finesse de jeu. C'est Zemeckis au cinéma qui va beaucoup jouer à ça avec le Pôle Express dans un premier temps qui va être le premier film intégralement tourné selon ce procédé là avec Tom Hanks dans le rôle titre notamment, mais donc il y a un film d'animation en 3D tourné en performance capture, et puis ensuite il enchaînera sur La Légende de Beowulf, et un autre film qui est quand même assez impressionnant, moi je l'avais vu à l'époque au cinéma, alors évidemment on est en plein dans la vallée dérangeante, parce qu'on est dans des moments où ça s'ajuste, et les acteurs 3D ont visages...
La vallée dérangeante, en deux, trois mots, parce qu'il y a peut-être des gens qui...
Ouais, alors La vallée dérangeante, c'est en fait cette espèce de sensation... de malaise qu'on va ressentir quand on va voir un personnage 3D qui se veut très réaliste. Enfin, un personnage, pas forcément 3D, un personnage artificiel qui se veut le plus réaliste possible, mais qui n'est pas évidemment un vrai être humain. Et donc, par des micro-détails de son expression de visage, de la manière dont il va se mouvoir, de ce qu'il va dire, il va créer justement cette vallée dérangeante, ce moment où on se rend compte que ce n'est pas un être humain, et du coup, on est dans une sorte de malaise, quoi. Notamment, beaucoup, on dit ça aussi beaucoup pour les tentatives d'androïdes, de robots très humains qui sont souvent un peu gênants parce que très saccadés ou pas forcément très réalistes, quoi. Et donc Zemeckis conclut sa trilogie avec le Drôle Noël de Scrooge. Donc ça, c'est trois films d'animation, je crois d'ailleurs, coproduits par Disney, il me semble, qui du coup, vraiment dans les années, on va dire, 10 après AS, travaille à fond cette technologie-là. Et puis bah, plus récemment, je pense qu'une des plus grandes réussites de la performance capture, c'est la trilogie de La Planète des Singes. Puisque là, ils ont été jusqu'à pouvoir... jusqu'à présent, la performance capture devait vraiment se faire dans un environnement relativement stérile, entre guillemets, c'est-à-dire avec des écrans verts, dans un endroit qui était bien cloisonné pour qu'on puisse vraiment capturer la performance de la manière la plus propre possible. Et La Planète des Singes développe cette technologie pour pouvoir le faire dans un contexte de la net, enfin dans un contexte de paysage naturel, dans des vrais décors, quoi. Donc du coup... ils ont été encore plus loin dans le fait de pouvoir le faire facilement et que les acteurs puissent jouer dans des paysages naturels, etc. quoi. Et donc, voilà, on a planté un peu le décor de cette technologie-là. Aujourd'hui, on arrive à prendre des acteurs et leur coller sur le dos, entre guillemets, une peau numérique qui est totalement différente de la leur. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, bah tiens, comment on arrive à caler des trucs 3D sur des gens ? Pourquoi on n'essayerait pas un truc qui pourrait être rigolo, c'est de rajeunir les gens. Et là, ces dernières années, on a vu énormément de films qui, du coup, jouaient avec cette manière de pouvoir rajeunir de manière 3D. Donc, c'est quasiment du maquillage 3D, les visages des gens pour leur faire jouer des versions d'eux-mêmes plus jeunes. Donc, il y a notamment Brad Pitt, évidemment, dans l'étrange histoire de Benjamin Button, qui joue très clairement sur cet aspect-là. Mais les films Marvel... pour ne citer que ces dernières années ont énormément aussi joué sur cette technologie jusqu'à Captain Marvel qui présente du coup Samuel L. Jackson rajeuni de peut-être 30 ans dans la quasi-intégralité du film sans que ça soit gênant
Dans Civil War c'est pas Robert Downey Jr. au début ou qu'on voit
Dans Civil War ouais il y a aussi Robert Downey Jr. Kurt Russell dans Gardien des Galaxies, Michael Douglas dans Ant-Man. Donc clairement, ouais. C'est vraiment un truc qu'ils ont travaillé. Jeff Bridges qui joue son jeune dans Tron l'Héritage. Ouais. Enfin voilà. Là, on voit une autre étape de la performance capture, c'est de se dire on va commencer à faire un peu mentir les acteurs sur le visage qu'ils ont, leur âge donc manipuler un petit peu les traits de personnes qu'on connaît. Quoi. C'est-à-dire qu'on va pas créer un personnage imaginaire sur la performance capture de quelqu'un, mais on va créer un visage connu sur une vraie personne. Quoi. Et ça m'amène au sujet final qui est le fait qu'il commence petit à petit, ouais, tu peux passer la vidéo, sur le fait de tester, le fait de faire revenir des acteurs morts, puisque finalement, pourquoi pas, on peut réussir à recréer de toutes pièces sur la performance d'un acteur réel, un visage en 3D qui aujourd'hui est de plus en plus réaliste. Donc là, devant les yeux, on a une vidéo de Rogue One qui a intégré dans le film donc le personnage du Grand Moff Tarkin, qui est un personnage de Star Wars épisode 4, qui est joué par Peter Cushing, qui est décédé dans les années 80, donc il y a quand même un petit moment. Et parce que Rogue One se passe quelques minutes avant Star Wars épisode 4, ils ont décidé d'introduire le personnage et de recréer intégralement ce personnage en 3D en se basant sur la performance capture d'un vrai acteur. C'est tout à fait étonnant parce que là, on parle pas d'un acteur vivant qui aurait prêté son visage ou qui serait rajeuni. On parle vraiment d'un acteur mort qui est intégralement reconstitué en 3D. Alors, il y a des moments dans le film où ça fonctionne très très bien. D'autres moments où clairement on se retrouve devant une sorte de mauvais jeu vidéo. Donc, la technique est encore relativement balbutiante pour recréer une personne intégralement, sachant qu'en plus, comme il est décédé il y a quand même assez longtemps, on n'a pas la donnée précise et HD de son visage, quoi. Ça, c'est un truc qui est hyper important à retenir.
Ouais, d'accord.
Parce que aujourd'hui, en fait, ce qui est en train de se... Donc, Star Wars derrière a continué à travailler ça. Alors, certes, c'était un petit peu à mi-chemin, on va dire, du décès, malheureusement, de Carrie Fisher. Mais dans ce même film Rogue One, on a une version rajeunie de Carrie Fisher, de la princesse Leia. Et dans le dernier aussi, l'ascension de Skywalker, on a aussi une version rajeunie de Leia et de Luke Skywalker. Donc, j'ai pas eu d'autres exemples à proprement parler d'acteurs décédés qui sont apparus dans des films, hormis un petit exemple assez cocasse et cocorico, puisque dans le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père, de Jamel Debbouze, en fait, effectivement, Jamel Debbouze a créé, alors c'est un film d'animation 3D, donc on est vraiment dans un film d'animation, mais pour un des personnages, Jamel Debbouze a utilisé via une intelligence artificielle qui a compilé en fait tout un tas de données, une version artificielle de Louis de Funès. Alors c'est très étonnant comme parti pris. Et quand on regarde le film, le truc c'est qu'en plus, c'est en gros, il l'a utilisé pour que le personnage émule un peu la manière de jouer, mais par contre, c'est doublé par un autre acteur qui pas parodie, mais qui
imite.
Qui imite Louis de Funès. Donc en fait, le résultat est pas super probant, mais c'est assez marrant. Comme une sorte de légitimation, on va dire, d'une icône comique. Il a voulu ramener ça. Je sais pas par quel truchement cette idée là lui est venue, mais à part ça, j'ai pas trouvé d'autres exemples. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, évidemment, notamment, puisqu'ils sont très dans les procédures et tout ça, un acteur aujourd'hui signe en fait des clauses de confidentialité pour fait enregistrer son image de manière numérique. Et donc, il a des avocats spécialisés par rapport à ça qui vont gérer ses droits numériques et donc il passe par en gros une étape de scan de toute sa personnalité et demain il y a fort à parier que en plus de sa personne physique un acteur vende aussi son image numérique, peut-être décide de dire moi j'ai pas envie de qu'on me voit dans un film après mes 30 ans par exemple et que donc on lui mappe sur son visage de 60 ans, son visage de 30 ans à
Vietnam. Mais c'est terrible, flippant quoi.
Et on peut même aller plus loin, on peut même se dire que demain, peut-être que Brad Pitt aura un rôle avec Marilyn Monroe dans un prochain film, où on peut imaginer en fait tout et n'importe quoi si les vannes s'ouvrent à 100% de ce genre de truc quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en termes d'éthique, ça pose plein de questions. Ouais. Ton image en tant que... Est-ce que, enfin voilà, les ayants droit de Peter Cushing, ils ont accepté de vendre l'image de leur grand-père ou de leur père à Lucasfilm, à Disney? Mais qu'aujourd'hui les acteurs réels en fassent un business, ça montre bien que demain peut-être c'est l'immortalité quelque part qu'ils visent dans leur image. Et pour finir, du coup, il y a la dernière vidéo que je t'avais envoyée, il y a un film en fait qui est sorti maintenant il y a plusieurs années qui s'appelle Le Congrès et qui traite exactement de ce sujet, donc je vous invite à le voir si vous en avez la curiosité. Ça parle exactement de ça, c'est le rôle c'est une actrice qui joue son propre rôle et qui c'est l'actrice qui joue
Robin Wright.
Robin Wright, Claire dans House of Cards entre autres. Et c'est l'histoire de elle qui va se faire numériser parce que elle est un peu en perte de vitesse et eux veulent utiliser son image pour faire d'autres films avec elle, mais elle veut s'occuper de sa fille parce que sa fille, je crois, est handicapée, est malade, dans le film, est malade. Et donc, du coup, il y a tout un truc qui se passe par rapport à ça et le film va très très loin dans cette idée puisque je crois qu'il se propulse aussi dans le futur où finalement son image à elle est réutilisée un peu à son insu, enfin, elle se rend compte qu'il y a plein de trucs quoi. Et le film traite exactement de ça et du coup il est assez intéressant, assez flippant aussi, mais je trouve ça assez intéressant de se dire que demain finalement un film entre la technologie dont je vous parlais la dernière fois où finalement on va même plus se déplacer, on projette des images sur des écrans et le fait que demain on puisse finalement prendre n'importe qui pour faire de la performance capture et dire bah en fait là ça sera Brad Pitt et machin. Demain, on pourra composer un film quasiment entièrement sur ordinateur sans se déplacer de sa chaise, c'est assez fou quoi. Ce que font déjà quelques réalisateurs, enfin Michael Bay pour ne citer que lui, utilise énormément de photos, enfin de vidéos stock d'un film à l'autre pour recréer
Transformers, on avait vu avec Transformers, des bandes de The Island, je crois.
C'est ça, des courses-poursuites où il change juste les effets spéciaux par-dessus par exemple. Donc mais c'est assez perturbant, je trouve ça intéressant.
Ah ouais, là pour l'instant, d'après ce que tu montrais sur Rogue One, l'acteur qui fait les mimiques a quand même un faciès qui ressemble quand même
Ils ont essayé de trouver, je pense, quelqu'un qui colle à peu près à l'opportunité de son visage.
Parce qu'après, la technologie va se développer et tu pourras mettre n'importe qui à la place.
Ils avaient fait ça avec Paul Walker qui est mort pendant le tournage de Fast and Furious 7.
Exactement.
Ils ont pris son frère et ils ont fait ça. Et là, il y a un projet de film avec James Dean.
Oh.
Voilà.
Et pour revenir à de la très haute technologie, Bruce Lee est mort pendant le tournage du jeu de la mort.
Ouais.
Et donc pour le remplacer, en fait, ils avaient mis un gars qui lui ressemblait un petit peu physiquement, qui faisait à peu près la même taille, sauf que pour le visage, en fait, ils l'avaient filmé devant un miroir et ils avaient mis une tête en carton de Bruce Lee.
Waouh.
Pour les plans.
Comme quoi, on se fait chier un bout de carton.
Ah, oui, voilà, c'est vrai.
C'est totalement véridique.
En parallèle avec tout ce qui est deepfake.
Oui,
qui
aussi,
se développe de plus en plus. Là, récemment, il y avait une fausse bande-annonce de Retour vers le futur où ils avaient collé le visage de Tom Holland et de
Robert Downey Jr. Ouais.
Et
ça, on ne parle que des utilisations à
ça, ils sympa.
Ouais. Ouais.
Ouais.
Ouais.
Voilà. Même mais... aussi les concerts virtuels de chanteurs
Tupac.
Comme Tupac, par exemple.
Il y a avec le visage, mais ça s'est fait aussi avec des intelligences artificielles ces dernières années où on a donné à manger des intelligences artificielles, ouais. Par exemple l'intégrale de Jimi Hendrix, pour qu'elle apprenne la voix de Jimi Hendrix pour refaire des chansons de Jimi Hendrix à partir de rien. Donc ça, tout est
imaginable.
Tout est
je sais que maintenant aussi, alors c'est peut-être Disney,
c'est le jeu de la vie,
peut-être que c'est Disney qui envisage de faire des scénarios à partir d'intelligence artificielle pour calculer, maximiser le potentiel commercial, mais je sais pas si c'est Disney ou un autre.
J'ai pas entendu parler de ça, voilà. Mais c'est déjà pas brillant toujours ce qu'ils font, alors du coup voilà. S'ils commencent à utiliser des intelligences
artificielles, ça marche,
le cinéma, ouais. Qui arrive, ça va être une jolie fois.
Ouais c'est assez dingue en fait.
Après il suffit de plus mettre de spectateurs, comme ça tout est fait en virtuel,
voilà.
C'est des intelligences artificielles qui regardent des films faits par des intelligences artificielles.
Et après il y a des gens qui vont dire ouais mais Netflix c'est pas le vrai cinéma, puis à côté t'as que des acteurs faux,
enfin, ouais, c'est ça, c'est clair, ouais.
Mais ce qui est fou aussi, c'est que si maintenant s'ils numérisent leur image et qu'ils la monétisent, c'est-à-dire que leur image leur appartient plus. Ça peut être revendu de compagnie en compagnie.
J'imagine que du coup, là, ils vont justement faire en sorte que ça soit très encadré, parce qu'ils s'en rendent compte que... Mais oui. Ouais.
Tu peux tout imaginer.
Ou alors on est dans le scénario de Dead or Alive, où on numérise des combattants, et après, avec des lunettes spéciales, on apprend comment ils sont forts à la bagarre, et du coup, on est fort à la bagarre.
Ouais,
c'est pas mal.
I know
ça.
The kung fu.
Ouais, c'est ça.
Très bien, on va avancer un petit peu, mais ouais. Enfin, si ça va à tout le monde.
Voilà, je suis presque collé à la chaise, donc on peut pas avancer plus.
Ouais, voilà. Non, je peux rapprocher encore plus. Merci Monsieur l'ours. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une idée de chronique qui pourrait très bien rentrer dans un derrière le miroir noir. Donc peut-être qu'à l'occasion, je te
je t'en prie.
On en fera deux par émission, c'est pas grave.
Oui.
J'ai une idée, donc on va peut-être...
Avec plaisir.
Peut-être y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a, Yo?
C'est-à-dire rentrer dans un derrière le miroir.
Oui.
J'ai entendu que rentrer dans
un derrière.
D'accord.
C'est bon, il n'y a pas que moi.
Je me dis, je vais pas rigoler, mais plus tu te retiens...
C'est le genre de phrase où tu la commences, tu fais... Ça va pas marcher. on va tout de suite aller sur une chronique, pas d'interlude, avec le relais culturel. Alors, c'était qui la dernière fois? C'était Shooten. Alors, est-ce que tu peux faire...
Ça.
Dans l'épisode précédent.
Previously on...
Alors, un an sans Internet de Ced aux éditions Macaca. Le principe, c'est on va suivre Ced qui va devoir vivre un an sans Internet et à une époque où vivre sans Internet, ça semble complètement impossible. Alors, pour te paraphraser, j'ai une expérience un peu mitigée avec cette BD. Enfin, voilà, vraiment, j'ai pas trouvé ça transcendant. Je pense que c'est parce que ça a vieilli, ça a 9 ans, quoi. Conclusion, peut-être qu'on devait...
Ça devait être plus sympa il y a 10 ans.
Voilà, c'était plus sympa il y a 10 ans, voilà.
Alors, je vous rappelle que ça y est, on entre dans un nouveau cycle de recommandations et de relais. À qui vas-tu donner autour de la table? N'importe qui.
C'est un coffret collector DVD de Slayers, donc une série animée. Donc, à vous.
C'est à moi.
Alors... Slayers, qu'est-ce que ça vaut?
Alors, Slayer, déjà, c'est un coffret de 7 DVD. Alors, j'avoue que j'ai pas tout regardé.
En carton.
En carton. Des petits épisodes de 20 minutes. Donc, ça passe bien, c'est assez facile.
Pourtant, t'as eu 5 mois?
Ouais.
55 jours, exactement.
Je vais y venir. donc, ça date de... de plus 1 après AS. Donc Slayer, c'est de Takashi Watanabe, donc un réalisateur japonais. Qui a commencé notamment à animer sur Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki. Il a été storyboarder, donc je vous fais la fiche Wikipédia, hein, storyboarder sur Kimengumi, et donc le
collège Foufou.
Voilà, c'est ça. Et bon, après plusieurs productions, il est arrivé, enfin il a un gros palmarès, il est arrivé sur, sur Slayer, qui est une adaptation de manga, pardon. Cette série, en fait, alors moi déjà là, je connaissais pas du tout. Elle a cartonné apparemment. Je l'ai regardé, c'est un truc qui à l'époque vraiment marchait super bien. Il y a eu, même qu'ils ont fait plusieurs déclinaisons avec Slayer Thrice, Slayer Evolution.
En fait, il y a,
comme les Beyblade,
y a eu trois saisons Next, d'affilée. Ouais. En fait, il y a eu Slayers, Slayers Next et Slayers Try. Puis 10 ans plus tard, il y a eu Slayers Revolution. Ouais. Et entre temps, il y a eu des films, des OAV et des jeux vidéo.
Alors, moi, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais je suis passé à côté de ça, je comprenais pas pourquoi. Mais ça passait pas. Alors, moi, j'étais quand même très branché sur les mangas de la télé dans les années moins 5, moins 15. Et j'ai pas vu ça, alors je comprenais pas. Mais c'était que
au Japon.
Que au Japon, et ça passait sur le câble et le satellite. Alors moi j'étais sur le club Dorothée, je la remercie d'ailleurs, maintenant je sais exploser un ennemi avec mes deux points, avec mes deux pouces plutôt, grâce à Ken. Et bon ben bah, j'ai, enfin voilà, j'étais un peu surpris, mais ça a bien cartonné. Alors après avoir dit ça, que dire du contenu ? Faut savoir, j'avais commencé juste avant le confinement, quand tu me l'avais donné, Shutan, j'avais fait quelques épisodes, et puis pendant le confinement, j'avais pas trop d'envie, donc j'avais un peu lâché le truc. Et quand on a mis sur le terrain l'enregistrement du podcast.
Merde, faut bosser.
Et ouais, et puis c'est surtout, j'étais là, attends, alors c'est quoi, faut que je m'y remette quand même, donc je vais reprendre un peu. Bon, alors mon DVD déconne un peu, donc j'ai pas pu en voir beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. C'est une série, alors là, il y a une héroïne, c'est Lina, qui est une sorcière plutôt balèze dans son domaine, elle fait de la magie noire, elle court le monde pour se battre contre les méchants, mais au passage elle en profite pour se mettre un petit peu de récupérer un peu du trésor des méchants pour son compte, et elle rencontre au fur et à mesure divers personnages qui l'accompagnent dans sa quête. Elle est assez drôle parce qu'elle est elle fait un peu femme un peu toute gentille, toute bête, enfin assez anodine. Et en fait, elle est super forte, et c'est surtout qu'elle est, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de blagues, il y a pas mal de second degré, il y a même du double sens, à un moment donné, je crois qu'elle parle à un gars en le traitant de demi-homme avec un sous-entendu comme quoi il n'aurait pas de pénis. Ouais. Mais je, enfin, moi qui l'ai peut-être vu comme ça, c'était pas bon, c'était quand même assez clair, mais voilà, très combative, une femme un peu libérée, qui fait pas mal de vannes, qui maîtrise un petit peu le bagout des hommes qu'elle rencontre. Alors j'en ai pas vu plus que ça, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un message justement sur le rôle de la femme dans la société ? Peut-être tu nous diras après. Mais donc elle rencontre Goury, qui est un chevalier, qui est beau gosse et tout ça. C'est une série qui est agréable à regarder, mais qui est quand même très daté, qui est très daté de cette époque-là. On retrouve pas mal moi je me suis revu regarder des DBZ ou des Nicky Larson quand elle s'énerve. Il y a un truc comme ça quand il y a des combats, il y a le côté une espèce de chorégraphie avec la caméra qui fait le tour du personnage avec des lumières un peu dans tous les sens. C'est joli, c'est esthétique, c'est un esthétique très daté de cette époque-là. Après, je pense, ça m'a pas plus accroché que ça, parce que je le vois maintenant, avec l'âge que j'ai maintenant, avec toutes les évolutions des dessins animés, du graphisme qu'il y a pu avoir. Là, il y a beaucoup comme à l'époque, de plans fixes recyclés pour faire un peu de.
Ça paraît un petit peu vieillot.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais voilà, je pense que je l'aurais découvert à l'époque, j'aurais été assez accroché parce que je la trouve assez drôle. Elle est un peu roublarde, elle est assez attachante. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est
Ouais, ça m'a pas forcément plus plus accroché que ça parce que ça a un peu vieilli. Après, je pense que quand toi tu l'as découvert à l'époque, ça devait être autre chose. Toi, tu l'as vu au moment de la diffusion ou après ?
Non, je l'ai vu au début des années, on va dire 10 après AS, 5-10 après AS, quand c'est arrivé en cassette. En cassette vidéo. Et en fait, c'est plutôt le côté. C'est surtout le. Je suivais beaucoup la comédienne en fait qui double Lina en japonais. Donc c'est Megumi Hayashibara qui fait plein de voix de plein de personnages très différents dans plein d'animés différents. Et on m'avait dit si t'aimes bien, regarde Slayers. Ça la change un peu de ce que tu connais, bon, d'accord. Effectivement. Alors, c'est de l'heroic fantasy déjà, faut préciser effectivement. Pardon, c'est vrai que c'est un peu vieilli, que on est sur des choses qui sont avant le grand boom de l'heroic fantasy. Donc, c'est très basique. Ça fait un peu partie de Donjons et Dragons, racontant un dessin animé, mais avec des persos un peu délirants. Donc effectivement, t'as Lina qui est une sorcière ultra balèze en fait, qui connaît un sort qui peut réduire en charpie une ville en 3 minutes. Donc bon, c'est voilà. Goury, effectivement, il est beau gosse et tout, mais il est con comme un balai.
Ça, j'ai pas trop senti. Voilà. J'ai pas eu le. Enfin, j'ai vu pas trop un et demi, mais de DVD, mais ouais, alors, pas il... trop vu. Il a l'air gentil.
Oui, là, il est gentil en fait. C'est ça en fait. Mais il est très, c'est Perceval en fait de Kaamelott.
Ah, d'accord.
C'est vraiment.
Ah ouais,
il
d'accord.
Est
table quoi.
Voilà, il est ultra con. Mais par contre, il est super fort aussi. C'est-à-dire que au combat, il a tout. Baston, force, dextérité, puis intelligence, il a zéro. C'est assez rigolo. Après, il rencontre un autre bonhomme qui est maudit. Donc c'est Zelgadis en fait, qui est le bonhomme bleu.
Qui veut l'objet là le...
En fait, lui, il veut être. Enfin, il est maudit. Il a été maudit par le mec qui est derrière, donc Rezo, qui est une espèce de prêtre maléfique, mais qui se fait passer pour un prêtre gentil. Enfin bon, il y a une histoire de double personnalité. Un peu plus tard, il tombe sur Amelia, qui est une princesse en goguette, s'est échappée de sa cage dorée, mais qui croit en la justice du monde et qui a vraiment des lunettes rose bonbon et qui voit qui veut faire jouer la justice partout. Enfin, il y a des persos qui sont vraiment très très marqués en fait, avec des personnalités très définies. Alors maintenant, ça passe moins bien parce qu'on aime bien avoir des personnages un petit peu nuancés, en demi-teinte et nuancés. Là, c'est vraiment la sorcière balèze héroïne, le mec con comme un balai et tout ça. Et donc forcément, ça a vieilli. Mais je trouve que c'est intéressant d'un point de vue capsule temporelle en fait.
Mais ouais, par contre, vraiment, je pense que je l'aurais vu à l'époque parce que je la trouve elle très drôle. Enfin, c'est un personnage qui est intéressant et qui vanne beaucoup.
Ils ont adapté effectivement le personnage et c'est dans un manga effectivement et là dans la série elle a pas vraiment de contrepartie dans les films où elle est toute seule. Enfin, elle est pas toute seule, il y a pas le groupe en fait de personnages. Il y a une autre sorcière qui est encore plus balèze qu'elle, sauf qu'elle a des gros nichons. Et donc elle est jalouse parce que elle est plus balèze et en plus elle a des plus gros nichons. Donc forcément ça joue. Et l'autre par contre elle est plus balèze mais elle est conne aussi. Donc c'est il y a des voilà
ça contrebalance.
Ça contrebalance.
Mais
alors c'est bien quand tu fais le geste des gros.
Regarde c'est Nagaz le serpent elle s'appelle. Elle a un rire qui est fantastique. Mais
et alors comme moi je te dis j'ai vu un et demi, il y en a sept. Ouais c'est ça, il y en a sept. J'imagine que de ce que j'ai vu, c'est une quête qui dure jusqu'au septième DVD. Donc c'est une histoire qui suit.
C'est une histoire qui se suit. Enfin, il y a plusieurs arcs, comme c'est souvent des arcs scénaristiques. Et effectivement, il y a tout un. Au début, il n'y a pas vraiment de fil conducteur en fait, à part quand ils rencontrent Zelgadis et ils doivent essayer de trouver son. Enfin, de le démaudire en gros. Puis après, ils trouvent autre chose et ça finit par une espèce de grosse bagarre contre un super gros monstre que
T'as un espèce de gros monstre à la fin qu'il faut battre et du coup
c'est plus un démon de l'enfer
d'accord
voilà mais bon puis après
c'est enfin le graphisme le manga enfin l'animation est assez caractéristique de cette époque là et
ouais complètement puis c'était une série qui était prévue pour la télé donc elle avait pas forcément un gros budget comparativement à une série de l'époque qui a beaucoup moins mal vieilli, en gros, c'est Cowboy Bebop ou Vision d'Escaflowne, qui étaient des séries à plus gros budget aussi.
C'était la même époque parce que dans ma tête, le dessin est plus travaillé, on va dire.
Mmh. Ouais, mais après, c'est des studios différents avec des budgets différents. Enfin, voilà.
D'accord.
Après, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Il y a des spécialistes, mais bon. Voilà.
Donc, très bien. Donc, voilà.
Donc, c'était Slayers. Et du coup, le relais.
Alors, le relais, alors... je vais le passer à Monsieur Lours.
Ah.
Et
je prends ta gueule.
Ça faisait trop longtemps.
Ça va, je pensais. Enfin, je voulais trouver autre chose qu'un film. C'est 6 tomes de bouquins de. Non.
La Bible. Tu vas lire la Bible.
Carrément.
Et tu nous fais un résumé. Non, ça va être un podcast. Ah. Un podcast, c'est la musique dans la peau.
D'accord.
Parce que tu connais, voilà.
Pas du tout.
C'est histoire d'amener un peu de musique et de podcast dans ce podcast.
Très bien. C'est original comme relais, un podcast. Je note.
Oui, pourquoi pas. Après tout.
Très bien. Et ben merci. Merci.
Avec Marianne, plaisir.
Et puis on se revoit pour la prochaine émission, pour la suite du relais. Et on va faire une petite interlude, Choutan.
Oh oui.
Je te mets ton petit jingle, je sais que tu l'aimes.
Oh oui.
On m'avait promis une émission complète. Et là, on me dit que c'est l'interlude. Cochon qui s'en dédie, Choutan.
Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent un bon voyage dans cet espace publicitaire.
Alors, je vais vous faire un blind test de musique de pub.
Ah wow.
Voilà,
enfin,
culture pub.
Faut retrouver la chanson.
Alors, faut retrouver la chanson, éventuellement, et puis bah, évidemment la pub ou la marque qui était...
Ah, je sais ce que t'as fait.
Qui était
coquin.
Alors à la base je voulais pas aller sur mais bon c'est pratique. Alors vas-y, mets le 1.
Le 1, c'est parti. Je précise que j'ai les sons mais je n'ai pas triché.
Ah,
ça c'est
Battlefield.
Alors effectivement, c'est la musique de Battlefield.
Non, c'est Bad Company ou
Non,
c'est Battlefield, le thème.
Non, c'est bien la musique de Battlefield 1942 mais alors donc
la pub,
quelle pub avait été utilisée? Non.
Une voiture ?
Non.
Est-ce que c'est pas une agence de voyage ?
Non plus.
Du ménage ?
Ouais, je pensais à ça aussi.
Et non.
Ça n'a rien à voir avec la guerre.
Ça n'a rien à voir avec la guerre. Oui.
C'est un truc du quotidien ?
C'est un truc extrêmement quotidien.
Des courses.
Des courses. Enfin, des courses, les courses alimentaires.
Ah, les courses alimentaires.
Le Drive Leclerc.
Ouais, non, c'était Intermarché.
Alors, c'est des mousquetaires quand même.
C'était une pub de. Il y a. 4-5 ans avec truc papa, où est-ce qu'ils vont chercher la viande, et puis ah bah tu vois ils élèvent des porcs dans le fin fond du Cotentin, et voilà, et donc tu avais cette musique là avec le mec qui va chasser les porcs au lasso, donc c'était voilà. Et donc rigolo parce que sur le forum de jeuxvideo.com, je vais pas faire une anecdote comme ça pour chaque chanson, hein, vous inquiétez pas. Sur le forum de jeuxvideo.com, t'avais des gens qui avaient gueulé en disant ouais, ils mettent la musique de Battlefield 42, oh, c'est cool. Un scandale, gna 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 et tout. Et en fait, t'avais des mecs de DICE, donc les concepteurs de Battlefield, qui ont fait non, mais c'est bon, ils ont payé, ils ont le droit hein, d'utiliser la musique, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà.
C'est la 2. Étonnant, ouais.
Numéro 2. Ça, c'est Bag Rider, c'est Shooting Stars.
Tout à fait.
Tut, 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 tut.
C'est ça.
La pub. C'est pas une pub.
C'est une entreprise.
Pour,
des voitures.
Ou un truc comme ça.
Alors c'était pour des télécommunications, ah, effectivement.
Là, Bouygues.
Bouygues.
À Microsoft. Un truc.
Non, c'était.
Ah non.
Énergie mobile.
Ah oui,
avec le mec avec sa tête qui s'envole.
Voilà. Ah oui, je me souviens.
Voilà.
Exact.
C'était nul à chier. Et il me semble que Bag Raiders, en fait, ils en avaient un peu marre d'être une musique de mème et elle a été complètement disparue.
En même temps, c'est pas terrible, la ouais. Chanson est pas incroyable.
Voilà. La 3, alors attention, là on revient dans les années. Ouh là là.
Manpower. Et c'est.
Quoi ?
Oh putain.
Trop fort.
Avec l'hélicoptère qui vient déposer.
C'est plus ça.
Ça fait ouais, le film du dimanche sur M6.
Bonjour Barbara.
Ah,
Alors c'est qui?
C'est George Michael.
Pas loin.
Pas loin de George King Michael.
C'est
yeah.
Non. Voilà, et c'est Phil Collins.
Ah ouais, exact.
On l'entend là.
Reconnaît son yeah.
Voilà. C'était Phil Collins.
C'est
The,
Manpower,
The West Side pour une pub Manpower dans les années 10 avant. AS.
À peu près, ouais.
Ah oui, moi.
Un, ah oui, enfin, ouais, c'était 8 avant AS. La 4.
Oh non.
Les voitures à vivre.
Nanana. Ah putain.
Enfin, la pub, c'était Renault, pas le chanteur.
Oui, oui,
oui. C'est une pub Renault. Je connais. Non.
Na 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 na. Merde. I want you, na 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 na.
Non, c'est
pas Sister Act, c'est ça? Il n'y a pas une chanson comme ça dans Sister
Act. Ah putain, c'est pas le mec qui fait.
Ah, running around. Pas Chris Isaac.
Ah, c'est pas loin, non, c'était. C'est Robert Palmer.
Ah oui! Heineken, c'est le but aussi.
Ouais, je crois.
Super fort à cet exercice.
On sent les mecs qui ont passé du temps devant la télé.
C'est clair.
En attendant les mangas.
La 5.
Ah, ça c'est Kenny West. Power.
Kenny West, ça, Power. C'était...
Alors, ça peut être.
Fringue.
C'est récent, 4 ça. Ou 3. La pub.
Alors, non, elle n'était pas dans la pub de Saints Row 3, elle était dans le jeu.
Bah, c'est un parfum alors.
Mais ouais, c'est Paco Rabanne. Paco Rabanne.
Ah oui.
Ou Forza 4. Le jeu de voiture. Allez, la 6.
Spando Ballet.
Oui.
Ça, c'était Fram ou un truc comme ça, un truc d'agence de voyage.
Alors, il y a plein de pubs en fait qui utilisent Trou de Spando Ballet. La plus. Ouais. Celle qui est passée le plus longtemps, je pense, c'était une pub Nescafé.
Ah ouais.
Donc, un petit potentiel parodique dans cette chanson aussi.
Ça, c'est, ça aussi, c'est une chanson un peu. Tu vois.
Oui.
J'ai envie de faire des gestes comme ça.
Il y a un moment où il y a un saxo qui est complètement ouf. Ok. La 7.
Ah, je vois ça.
Les Commitments,
c'est une pub pour une voiture.
Il y a eu plusieurs pubs qui ont utilisé cette voiture.
C'est pas les Commitments.
Non.
Je connais, putain.
Ça, c'est dans une bonne chanson aussi qui passe encore.
Le chanteur est... Il est chaud, il est... Putain, je connais que ça. Enfin, je connais pas que ça, mais...
Alors, c'était une pub pour Tropicana, en fait. Par exemple. Et c'est les Fine Young Cannibals.
Fine Young Cannibals.
Avec Good Thing.
Putain.
Donc, pareil, hein, utilisé dans beaucoup de pubs, dont effectivement des pubs pour des voitures ou un truc comme ça. Et la huitième.
Ah, Dead or Alive. Ça, c'était la pub Right Wound. Reprise par Pitbull, un truc comme ça.
Ah ouais.
Ouais.
C'était une des musiques qu'il y avait dans les derniers Very Bad Trip.
Ah ouais,
ouais, mais
ça, je sais, c'est.
C'est tout récent.
C'est de la bouffe.
C'est pas
c'est,
que.
C'est de la malbouffe.
C'est
un
Just
truc
Eat.
Genre McDo, un truc comme ça.
Non, c'est Leclerc en fait.
Ah ouais.
Ah ouais.
Décidément, Intermarché,
j'ai
Leclerc.
J'ai pas la télé, mais j'ai tout en tête.
Il nous en faut un troisième.
Alors là, on retourne encore dans les années un peu les mêmes que.
Merci YouTube. En
que,
fait,
que Phil Collins, etc.
Dire Straits.
Ouais.
Ah, putain. Hey Monsieur l'Ours.
C'est une, un truc de bagnole aussi ça.
Non.
Ça peut être
n'importe c'est quoi. Pas Manpower aussi.
Non, c'est pas Manpower.
Ça putain. Marche une fois.
Ah merde.
Pas j'ai pas de tente le fond.
Ça pète un moment ou pas? Ça reste comme ça. Parce que là j'ai pas trouvé.
Putain, c'est quoi le c'est produit
ça. Peut-être une voiture.
Attends. C'est pas un truc de... Je vois une plage, une grande étendue.
Alors, c'était le Crédit Agricole
ah.
Avec le slogan Le bon sens en action.
Ah, oui.
Donc, Private Investigation de Dire Straits sur l'album Love Over Gold. Écoutez-le, il est génial.
Mm.
Et la dernière.
TNT.
Elle est passée dans un de tes blind tests. Elle,
ouais. Bah c'est Roundabout, yes.
Non.
Ah non. Ah non, c'est Candide.
Voilà.
Ouais.
Oh,
et ça.
Ça c'était une pub sur du café.
Et non.
Ah non,
c'est Renault
de Candide.
C'est pas Renault non plus, non. C'était Peugeot la 205. C'était pour la Peugeot 205 Junior avec le mec qui conduit la voiture. Il y a trois nanas qui rentrent dans sa bagnole qui sont poursuivies par des motards. Et puis, à toi de jouer maintenant. Et la pub des nuls où la voiture démarre pas et où en fait il se fait
il
péter
fait
la gueule.
Ah bah merci, c'était bien
merci.
Ce petit détournement
voilà.
Là depuis.
Ouais,
c'est...
ouais.
Voilà. Ça change un petit
des
peu.
Des temps que je n'ai pas connu. On va dire ça comme ça. Et bien c'est à moi. Et on va terminer avec moi. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. On va parler de danse, mais je vais mettre mon petit jingle. Ah.
Les hommes sans chapeau.
Voilà. Voilà, bienvenue dans cette chronique. Je suis ravi de vous retrouver. Est-ce que vous aimez la danse?
Oui.
Est-ce que vous aimez le grand spectacle?
Oui.
Est-ce que vous aimez mourir?
Non.
Non.
Ah, ok. Bon, super l'ambiance. Bon, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je n'avais pas trop de quoi parler, donc j'ai ouvert mon grand tiroir à bordel où il y a tous les trucs chelous que j'aime bien. Genre les orages, les séries du Arrowverse, les reprises allemandes de Marc Lavoine, je vous en parlerai un jour.
Oh la vache.
Le catch, les documentaires sur les fraudes à l'hygiène dans les kebabs, je vous en parlerai aussi. Mais surtout, le sujet dont je vais vous parler... Et pour être franc, c'est un sujet dont j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts assez divers. Peut-être que tu étais là un jour, c'est possible, Choutane, donc peut-être que ce sera un recyclage pour toi. Mais je vais vous parler des marathons de danse.
Ah ouais.
Ça vous dit quoi les marathons de danse ?
On achève bien les chevaux.
Ouais, je pense à ça. Voilà,
c'est bon, j'ai fini la chronique.
Allez, salut !
Non, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les marathons de danse, ce qu'on appelle un marathon de danse, ça va être un événement où pendant des jours... ou des semaines, voire des mois, hein, 6 mois pour le plus long. Voire
oh la vache, putain.
Des participants doivent danser sans s'arrêter sous peine d'être disqualifiés et le gagnant reçoit généralement un prix ou plus souvent de l'argent. Et enfin, on dirait que j'ai tout dit comme ça, mais quand on creuse, il y a plein de choses assez intéressantes sur le contexte, parce que le contexte est important, on nous le dit hein, tout le temps. Ce genre d'événement, c'est assez révélateur d'une situation économique et sociale à une époque. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, mais aussi d'une certaine forme de violence physique et morale. Et on remonte au début des années 20, avant même qu'on appelle ça un marathon de danse, c'était une dame qui s'appelait Alma Cummings qui a établi un record en dansant 27 heures d'affilée. Ah. Voilà. Et ça a motivé d'autres personnes à essayer de battre ce record. Puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et on commence également à faire ça pour de l'argent ou des prix. Voilà, ça a pris de l'ampleur. Et c'est véritablement un petit peu plus tard... en gros, un petit peu plus de 60 ans avant AS, que ça a pris toute son ampleur aux États-Unis, et c'est ça qui venait nous intéresser. Pourquoi cette époque-là ? Parce que c'est la Grande Dépression aux États-Unis. Grosse crise économique, dans les États-Unis et ailleurs. Hein. Donc effondrement de la bourse, des faillites de banques, d'entreprises, un chômage qui va crever le plafond, une grosse misère sociale. Et en temps de crise, on peut toujours compter sur certains pour se faire de l'argent sur le dos des pauvres. Voilà.
Comme vendre des PS4 à 95 euros.
Par exemple, voilà, pour faire sa promotion quand on ouvre son magasin. Donc certains promoteurs ont bien compris ça et se sont frottés les mains pendant une dizaine d'années. Parce que dans l'idée, je vous mettrai une petite vidéo, mais dans l'idée, ces marathons de danse, la fonction, elle était double en fait. C'est que premièrement, c'était un divertissement qui était assez bienvenu dans ces temps assez moroses. Surtout pour ceux qui avaient les moyens en fait. Il fallait payer son ticket pour venir assister. Et il y avait ce petit parfum de sadisme et de voyeurisme où tu regardais des gens danser comme ça sans s'arrêter. Ce voyeurisme des plus aisés hein, qui venaient voir des pauvres en pleine débâcle, hein, clairement, c'était pas très très drôle à voir. Et certains évoquent ça comme des ancêtres des reality shows pour le côté voyeurisme. Et seconde fonction aussi, c'est que pour les participants à ces marathons, c'était souvent des gens qui étaient dans très très défavorisés, des pauvres. Hein, et c'était l'assurance d'avoir un toit, d'avoir des repas chauds gratuits pendant plusieurs semaines, mois même. Et peut-être d'empocher quelques centaines de dollars si on était le dernier sur la piste. Et au niveau du déroulement, donc un marathon, ça se déroulait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où il était interdit, bien sûr, de rentrer chez soi, ben oui, pour se reposer ou s'occuper de ses enfants. Il fallait rester en mouvement pendant environ 45 minutes par heure. Donc on pouvait voir des gens faire leurs tâches quotidiennes. Donc c'était pas rare de voir des gens en train de manger en rythme, en train de lire le journal, en train de se raser, parce que tu avais la femme qui tenait la bassine et le miroir, et le mec qui se rasait tout en dansant. Voilà. Et le quart d'heure de pause, alors peut-être qu'on verra sur la vidéo là, mais ça servait justement aux participants d'aller dormir dans des lits qui étaient face au public. Donc on pouvait les regarder dormir aussi. Ouais, et ceux qui, voilà, on les regarde manger, on les regarde dormir. Vraiment du voyeurisme, et ceux qui n'arrivaient pas à se réveiller, par exemple pour les femmes, on leur mettait des gifles, pour les hommes, on les jetait dans des bassines d'eau glacée.
Oh, violence.
Alors, certains marathons, comme vous le voyez là, autorisaient le fait de laisser un des deux cavaliers dormir debout pendant que l'autre le retenait, tout en continuant de danser. Et tant que les genoux de la personne ne touchaient pas le sol, bah, c'était bon. Voilà, le public pouvait également jeter des pièces. C'est assez. Contrairement à la musique que j'ai mis au début, c'est.
Ah, c'est horrible.
Horriblement, ouais, glauque. D'autres étaient sponsorisés, voilà. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, en fait, ces genres de trucs, même pas idée que c'est.
Ah, que ça a existé.
Existé un jour. Donc, ça durait des mois, des semaines. Dans un premier temps, bah, ils ménageaient les participants pour, en alternant des musiques rapides et des slow, histoire de les laisser se reposer. Et puis, en fait, tout était bon pour attirer du monde. Voilà, ils s'endorment debout, c'est terrible. Et il y avait aussi une part de scripté. Les organisateurs allaient jusqu'à embaucher des gens pour simuler des bagarres, pour faire venir des gens. Enfin, voilà. Les gens venaient voir des bagarres, donc voilà. Un peu comme BFM.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais plus les choses changent, plus ils restent les mêmes. En fait,
voilà,
un peu,
c'est ça. Quand les organisateurs commençaient à voir que le public commençait à se lasser et qu'il y avait de moins en moins de rentrées d'argent, il fallait passer à la vitesse supérieure. Donc, on essayait d'éliminer les candidats en vitesse, c'est-à-dire qu'on enlevait les pauses, interdiction de s'endormir, on faisait de la course à pied, du catch dans la boue, même pour les fatiguer. Le but, c'était vraiment de les briser.
Et c'est quoi le rapport avec la danse?
À la fin, c'est fini, on range, on va vous briser physiquement.
C'est la chair à canon, quoi.
C'est ça. Et donc quand je vous parlais de violence physique et morale, on en est là, hein. Il y avait des conséquences qui étaient assez fâcheuses, il y avait des fatigues extrêmes, des cas d'hystérie, des délires, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des morts aussi, un mort en tout cas, peut-être plusieurs documentés, et donc il y avait pas mal d'opposants, hein, bien sûr, parce qu'il y avait quand même des gens sensés à cette époque, des levées de boucliers, parce que c'était des événements qui étaient assez cruels, il y en avait partout aux États-Unis, hein. Il y a eu des interdictions petit à petit des pouvoirs publics dans certaines villes, jusqu'en 1937 où ça a été totalement banni. Et en 1933, pour contourner la loi par exemple, les organisateurs d'un marathon de danse avaient embarqué 18 personnes qui ne devaient pas s'arrêter de danser à l'arrière d'un camion, voilà, tout en continuant à danser, pour les mettre dans un bateau en dehors des eaux territoriales, donc en dehors de la juridiction d'État, pour les faire continuer à danser, et puis en fait tout le monde a eu le mal de mer, donc ça s'est arrêté rapidement. Voilà, ce genre de truc où aller jusque là en fait pour faire du profit. Et on est qu'aux années 30, hein. Je pense qu'on peut aussi
on enferme des gens même maintenant, oui, et on les regarde vivre.
Ouais, c'est pour ça quand je te dis l'ancêtre de la télé.
Ah ouais, clairement.
Et donc si vous voulez découvrir un petit peu plus là-dessus, il y a bien sûr le film de Sydney Pollack, hein, que je n'ai pas vu. On achève bien les chevaux, tu l'as vu ou pas?
Alors non, c'est parce que il y a un improvisateur français, enfin un metteur en scène, qui a fait tout un spectacle moitié improvisé, moitié écrit autour de ce concept-là aussi. Ouais. Ça doit s'appeler Suburbia, je crois, et c'est Laurent Mazet.
Il est de Rennes.
Ah bon?
Oui.
Oh mais c'est trop bien, on est des talents ici. Et donc ce film de Sydney Pollack, c'est basé sur un livre que j'ai peut-être lire d'ailleurs. C'était quelqu'un qui gravitait dans ce monde-là. Hein. C'était un videur d'événements en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le bon moyen de prendre le pouls d'une société, parce que là, je vous ai parlé des années 30, mais il y en a eu en France aussi dans les années 30, et ça m'a rappelé un reportage sur un marathon de danse dans les années 80 à Paris. Peut-être que vous l'avez vu. Et on retrouve pas mal de ces marqueurs, donc la crise économique, le taux de chômage chez les jeunes. C'était un documentaire de l'INA, alors je vais juste vous mettre un petit extrait rapidement, si je retrouve ma souris. C'était un petit reportage de l'INA qui s'appelait Overdance. On retrouve beaucoup ça dans les enfants de la télé, parce que c'est drôle, mais... au final, c'est assez triste. C'est un reportage qui dure 15 minutes, vous irez le voir sur YouTube. Mais ça permet de comprendre une époque. Et, voilà. C'est vrai qu'on est tenté de se moquer comme ça quand on les voit, mais au final, c'est plus gênant que ça. Voilà. Et maintenant, est-ce que ça existe encore les marathons de danse?
Oui. Ah ouais?
Mais c'est essentiellement des marathons de danse caritatifs. Heureusement. Donc on a arrêté de fatiguer les gens pour de l'argent. Là, c'est vraiment des marathons caritatifs où c'est bien encadré avec des conditions sanitaires, etc.
Puis j'imagine qu'il y a un aspect un peu sportif peut-être qui s'est développé, de gens qui du coup s'entraînent à...
Oui, alors il y a des concours d'endurance de danse, hein, mais je veux dire qu'on n'est pas dans ce voyeurisme qu'on avait à l'époque. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est quelque chose... J'en avais jamais vraiment entendu parler, mais c'est vrai que c'est un sujet que je trouve assez impressionnant, en fait. Voilà, désolé de vous avoir plombé, mais c'était un petit moment d'histoire que j'avais partagé avec vous. Ouais, parce qu'on n'imagine pas.
Il y a des histoires comme ça, de pas de marathon de danse, mais où il faut rester toucher une voiture.
Ouais. Justement, ça existe encore.
Très friand de ça.
Ça existe encore.
Ça se voit beaucoup dans les séries.
Ouais.
Faut rester toucher une voiture pendant
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne.
Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, quoi.
Mais les États-Unis sont assez friands de ce genre de choses. États-Unis, de toute façon.
Ils ont des concours spéciaux comme le manger des hot dogs.
Voilà, les concours de hot dogs.
Couper des bûches.
Sacré délire.
Lancer de tronc, tout ça. Ah non, ça c'est en Écosse.
Voilà, c'était pour cette petite chronique.
C'était cool.
Historique.
Vous ne connaissez pas.
Voilà.
Effectivement, t'en avais déjà parlé. J'ai des souvenirs qui sont revenus. Mais bon, autre temps.
Autre mœurs, voilà. Comme on dit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Enfin.
Oui.
Ah.
Enfin. C'est fini.
Ah non, attends. Oh.
Mais non, mais non. Bah écoutez, je suis content de vous avoir retrouvé déjà.
Ouais, c'était cool.
Espérons qu'on se retrouve dans les mois à venir si tout se passe bien.
Mais oui,
avant la deuxième vague.
Avant la deuxième vague. Où est-ce qu'on vous retrouve autour de la table ? Enfin, notre petit tour de table habituel, Shoutan.
J'étais
pris au dépourvu.
Ouais, complètement. Sur Twitter, où je fais des blagues.
Oui, hein, t'as percé.
J'ai percé avec 54 likes. Ouais. sur Twitch où je joue à des vieux jeux vidéo.
Ouais.
Dernièrement, j'ai mis un coup de pied à une mouette et ça m'a fait beaucoup rigoler.
Monsieur Lourdes, toi t'as pas arrêté hein, au final.
J'étais chez moi, hein, comme tout le monde. Ouais. Donc voilà, mais effectivement, spoilers, on a essayé de. Pour se former techniquement, hein, on va pas se voiler la face, de faire des petites émissions un peu confinement pour recommander tout un tas de choses, voilà. Puis sinon, effectivement, c'est les réseaux. On s'amuse en ce moment à jouer un petit challenge sur Twitter où on propose des séries avec des thématiques. Du coup, c'est assez cool parce qu'en fait, ça permet d'aller creuser un peu dans son répertoire et puis de retrouver des vieilleries sympas.
Starty Day Series Challenge.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez cool. Voilà, voilà.
Yo ?
Sur mon canapé, en train de terminer le dernier tome de À la croisée des mondes.
Ah ! Bien.
Avant de regarder la série ou...
Alors, la série et ça a été un gros coup de cœur.
Ah, donc t'as regardé les bouquins après enfin,
j'ai lu les bouquins après,
okay.
Ouais.
Toi, PM en train de finir Slayers DVD.
Ouais, ben non, il marche plus le lecteur. Sur mon compte Twitter qui est plutôt inactif, donc vous verrez pas grand-chose. vous me retrouverez probablement dans Rennes. Dans une rue, en train de chercher chez moi, en train de me cogner contre les murs,
vous, monsieur.
En disant c'est des séquences le monde d'après.
moi, vous me retrouverez partout et nulle part, mais surtout le 31 juillet, peut-être devant Tenet au cinéma.
Ah,
le
oui.
prochain de l'année. Mmh. Voilà.
Cool. Sur Twitch pendant le montage de cet épisode.
Oui, je.
Ah ouais.
Wink, wink. Oui. Alors, exact, j'ai prévu de faire le montage de cet épisode sur Twitch. Pour étraîner un petit peu mes nouvelles techniques de montage qui vont prendre 10 heures. Voilà. Et puis, voilà.
Tu verras ça avec plaisir.
Bah ouais.
Peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine.
Oui.
Voilà, où est-ce qu'on nous retrouve ? On va peut-être rappeler où nous retrouver parce que les gens, ils ont peut-être
oublié
5 mois, donc on nous retrouve sur Twitter et sur PodCloud.
Ouais, complètement.
Voilà, démerdez-vous.
C'est ça.
Mais je me pose la question, c'est si les gens écoutent l'émission, c'est qu'ils l'ont trouvé.
Oui, mais voilà.
Théoriquement,
donc,
oui.
Théoriquement, oui.
Pas, moi, j'aime pas non, prendre les gens par la main.
Peut-être que c'est quelqu'un qui nous a partagé de manière complètement fortuite et...
Faites vos recherches, enfin, les enfants.
Voilà, bon, je suis content d'avoir fait ce petit retour tranquille.
Ouais.
Oh oui.
Cool.
Bien agréable.
Alors, il faudra qu'on se fasse notre spécial...
Confinement. Déconfinement.
Déconfinement.
Ah oui.
Il faut quand même que je parle de Alerte Cobra à un moment.
Ah oui.
Voilà, donc on le fera dans les mois à venir.
Et du clown.
Et du clown, Max Zander. Mm. C'est un univers partagé en plus. Bon, bref...
C'est le Autobahn Polizei Cinematic Universe.
On dit au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Ouais. Salut tout le monde.
Au revoir.
À bientôt.
Sauf toi là, parce que je t'aime pas. Ouais.